m'en remettrai jamais. Salut tout le monde! Salut! Ça brasse à Québec! Je m'en remettrai jamais.
Faites du bruit!
Au 88...
Ouvrez le mosh pit!
Au 88-971-1021, qui est là? Je me fais tout le temps surprendre par les beds musicaux pour entrer dans l'émission. C'est écrit « Soft Play », je crois pas. « The Punk's Dead ». Là, ça, j'y crois plus. Salut tout le monde, vous êtes bien à Boulevard 102.1. L'indice musical vous le dit à 10h03. Mon nom, c'est Pascal CV. Ça me fait un vrai plaisir de vous accompagner quelques heures avant la toute fin de ce parcours-là, Boulevard 102.1. Mathias, qui est à mes côtés, toujours fidèle compagnon, encore plus cet été. Salut, Matt.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va très bien, oui.
Ça rock?
pas le choix de rocker, hein? En plus, on a une belle journée pour rocker aujourd'hui.
C'est une magnifique journée, vois-tu? Moi, j'entends plus du Sublime dans ma tête. Genre, qu'est-ce que vous entendez dans votre tête en ce moment sous le soleil? 418-971-1021, ça va partir l'émission du bon pied. On va faire une petite incursion dans votre tête, OK? On va faire ça en gang. Toi, Matt, avec un soleil de même, t'entends quoi?
Qu'est-ce que j'entends? Hey là, tu m'en poses une bonne, Pascal.
Ouais, le gars, c'est pas le plus rapide de sa musique.
J'entends des cris de bonheur.
Mais mettons, t'as une toune.
Non, mais
là.
Pour être quétaine. You Shook Me All Night Long de AC/DC.
OK.
Quand il fait beau, là, tu sais. Tan, 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 tan.
T'entends ça.
T'as le goût de partir en road trip, la vite baissée.
Matt entend dans sa tête quand il fait beau comme ça, puis c'est le cas de le dire, il fait beau comme ça. Encore une magnifique journée sur Québec. Tiens, on va faire une radio musicale. Magnifique journée sur Québec, 24 degrés. C'est ce qu'on a pour toute la journée, même parce que j'ai pas une prévision de pluie à vous offrir. Puis ça, d'après moi, vous êtes bien contents d'un cadeau de même aujourd'hui. Puis demain, vendredi, ça n'a pas bougé. On va encore viser un 30 degrés à Québec. Profitons-en parce qu'en fin de semaine, ça semble être un petit peu différent, mais ça peut encore changer.
Hey, t'as-tu vu comment que ça sonne de bonne humeur, de la chaleur avec cette chanson-là derrière?
Ça sonne bien, ça sonne bonne humeur, ça sonne chaleur. T'as raison, on a quelque chose là.
C'est quoi que t'entends, toi, dans ta tête en ce moment?
Ben là, je vais y aller avec les auditeurs, je te reviens, OK? Là, il y a quelqu'un qui me dit, puis là, merci hein, d'être passé avec moi puis la console, là. Quelqu'un qui me dit ça. Ah, ça me donne la mienne. Plus en reggae. Dans le ska. Ça, c'est ce que Jennifer entend dans sa tête avec de la belle météo comme on a en ce moment. J'ai un autre auditeur qui entend ça. Ça, c'est Pierre-Luc. C'est... J'avoue que celle-là... Ça fait aussi.
Ça sonne vacances.
Ça sonne vacances. Ah, j'aime ça. Il y a un auditeur qui entend une des tunes qui me rappelle le plus un de mes films préférés de jeunesse. Je vais vous la chanter. Il entend ça. Quel film, Mathias?
Ben là, je suis pas un culte non plus. Shrek. Shrek, Pascal. Tu m'as regardé. Toi, la jeunesse, hein? Tu te souviens-tu c'est quel film? C'est Shrek.
Quelqu'un entend ça? Let's go, girls. Ça, c'est qui, Mathias? Come
on. On embarque-tu dans un quiz musical, Pascal, puis j'étais pas au courant? I'm feeling all right. Don't
let it all hang out. Quelqu'un entend ça?
Oh!
Les Beatles avec Here Comes the Sun? Here comes the sun, do do. Here comes the sun.
I say it's alright.
Ça nous donne l'âge de l'auditrice là, qui nous a envoyé sa suggestion à cette journée de soleil.
Run, 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 what I do, c'est le temps des vacances. Run, 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 what I do, c'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Nous avons gradué, c'est le temps des vacances.
Vas-y.
La saison hey,
on t'a fureur, Matt.
Je fais pas du karaoké non plus, je m'appelle pas Max Larouche.
Et tant mieux, tant mieux. Un autre auditeur qui entend ça dans sa tête, ça fit aussi, là. 30 degrés, crème solaire.
I don't practice Santeria, I ain't got no crystal ball.
Ils vont attendre.
Mais on se donne un peu d'énergie.
On
là.
Donne de l'énergie. Ça, c'est entendu aussi. J'espère que notre prochain invité est bien branché. C'est David Simard qui va être avec nous de la ferme Simard. On va parler de la santé mentale des agriculteurs. J'espère qu'on l'agrémente en ce moment dans ses champs. Moi, ce matin, je me suis levée avec une chanson dans la tête. Elle est un petit peu plus intense, OK? C'est celle-ci. Fait que ça pourrait aller avec la météo. Tu ris, toi? T'attendais à du Britney Spears?
Ben, je m'attendais pas à ça, mettons.
C'est bon, ça.
Depuis le début de la semaine que tu t'étonnes d'avoir nos beds un peu plus métal, que
c'est
t'es
pas
comme
métal,
oh,
ça.
Ben, non, mais ça brasse quand même pas mal.
OK, un autre groupe incontournable que notre auditeur entend dans sa tête, c'est Stéphane. C'est un des seuls shows que j'irai voir avec un hologramme.
Queen,
ouais, pour voir Freddie Mercury. Là, à un moment donné, la technologie va nous donner plus de shows dans ce sens-là. Stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. La dernière qu'on va s'offrir, ça rentre en masse au 88-971-102. En tout cas, on sait que vous êtes là. C'est une valeur sûre. On dirait que quand on pense à Toon Soleil, à été, Bryan Adams sort toujours.
Fallait qu'elle sorte au moins.
Fallait
une
qu'elle
fois.
Sorte. I got my first real six string. Boy, it at the five and done. Played it till my fingers. C'est drôle parce que j'allais zéro là avec vous aujourd'hui. Là, j'allais vous demander une toute autre question, puis ça a avéré qu'on a fait une incursion dans notre tête en cette journée ensoleillée à Québec à 30 degrés. Mathias, sais-tu de la circulation?
Oui, ben un petit peu. Là. On a quand même eu une belle journée, donc c'est pas trop pire. 20 direction ouest entre Taniata et Chemin des Îles, un petit quelque chose. Même chose Henri IV, direction sud à hauteur de Charest. Puis si jamais vous voulez profiter de cette belle journée pour aller à Valcartier, ça fait deux jours, c'est complètement bouché. Pour l'instant...
Ça,
ça circule bien.
Ça circule. Donc, à 10h12, Valcartier. Tu prends ta petite sandwich, tu prends ta petite bouteille d'eau, puis tu te diriges. Mais ça, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui nous écrivaient qui dormaient mal ces temps-ci. On a eu un magnifique coucher de soleil hier soir. C'était genre, on pourrait mettre la chanson thème du Roi Lion, là. C'était une grosse boule de feu. Ce matin, même chose pour ceux qui se lèvent tôt. C'est deux beaux, beaux, beaux moments qu'on avait dans notre journée. Je sais pas si ça joue avec les feux de forêt. Des fois, ça joue hein, pour la couleur, pour la petite bruine qu'on peut avoir autour. Mais je m'en allais là parce qu'il y a des gens qui disaient « Hey, je dors mal ces temps-ci. Je sais pas si c'est mon retour de vacances. » Puis on en parlait dans l'émission du matin. Puis juste avant qu'on entre en onde, il y avait une publicité de matelas Dauphin. C'est genre un des plus grands fournisseurs de matelas qui existent. Puis pour une raison que j'ignore, finalement, j'ai visité comme la place de matelas de Dauphin ici okay, à Québec oui. Dans la dernière année. Hein, on peut être sincèrement fiers de ce qu'on a. La technologie, elle est incroyable. La façon de faire un matelas aussi, ça m'impressionne. Là. J'avais jamais vraiment regardé ça, les sous-couches, les couches. C'est élaboré ici à Québec avec du monde qui travaille dans l'industrie. Ici, dans le quartier industriel, je trouve ça extraordinaire de voir un matelas se monter. Moi, j'aime ça, ces émissions-là, de comment c'est fait. Là.
Comment c'est fait, comment ouais. on met ces six couches-là, ouais. une par-dessus l'autre. Puis ça, c'est quand même fou, là, parce que c'est une technologie qu'on pense pas. Tu sais, dans le sens, tu vois un matelas dans ta tête, c'est un matelas, mais ça a tellement évolué dans les dernières années.
Tellement évolué, tu sais, parce que j'ai magasiné mon nouveau matelas, je l'ai pris au matelas Dauphin, j'ai adoré et j'adore encore. T'sais, j'y pense en ce moment, là, je commence à être fatiguée tranquillement de ma journée. J'ai hâte à ma petite sieste dans mon nouveau matelas. Mais ça, c'est, je pense que c'est un luxe qu'on oublie trop souvent, là, s'assurer que notre chambre est à notre goût et qu'on est bien dans nos affaires. Mais quand tu dis que ça a évolué, il y a cette tendance des matelas en boîte. Là. J'en ai vu un se faire. Ça n'a pas de bon sens comment tu réussis à mettre un mini matelas dans cette boîte-là. Puis une fois que tu l'ouvres, ça prend de l'expansion, puis t'as un leaking finalement. Puis ce qui m'expliquait, parce que j'étais comme curieuse, puis je posais des questions, fait que quand je le magasinais, mon matelas, ils m'ont amené voir en arrière. Ils font plein de boîtes, puis ils envoient dans le Nord. Pour ceux qui vont travailler dans le Nord, il y a eu une grosse commande qui a été faite, fait que super.
Bien, pour le transport, c'est parfait.
Il dit ça coûte des milliers de dollars en moins à l'entreprise qui se fait livrer ces matelas-là en boîte parce que ça prend plus de place. Avant, c'était des conteneurs et des conteneurs et des conteneurs. Pensez-y, là, pour les camps là, miniers, les ci, les ça. Là.
Ah, puis des vieux matelas, c'est lourd en maudit.
Ben
là.
Oui.
Hey, ceux qui ont eu à déménager récemment, puis qu'il y avait un matelas un peu plus récent, puis un matelas un peu plus vieux, là, tu vois la différence. Hey, c'est pas trop long que tu vois la différence. Là. Le dos se porte beaucoup mieux avec le matelas récent, je peux le confirmer.
Ouais, puis tu prends pas celui qui est sur le bord de la route, là, où on dirait qu'il y a un grand acarien à pattes croisées qui te regarde en disant prends-moi, ça va piquer à soir.
L'acarien, il est rendu tellement gros qu'il est couché sur le lit.
Puis il a la patte croisée, je te le jure. Puis il te regarde. C'est dégueulasse, moi, ce moment-là de la ville, quand les gens déménagent, je suis mettre des choses dehors. Je suis comme, ben voyons, les gros vidange, là, il y a des dates pour ça. Mais je sais pas si tu avais à changer, toi, t'es jeune, là, une chose dans ton appartement, puis tu dis ça, ce serait mon luxe pour du bien-être, ça serait quoi?
Un lave-vaisselle.
T'en as pas?
Non, j'en ai pas.
C'est toi le lave-vaisselle.
C'est moi le lave-vaisselle.
T'es à cet âge-là où t'es le lave-vaisselle.
Oui, puis tu sais, c'est correct, là, genre dans le sens, là, déjà, j'ai mon appartement à moi, c'est la première fois cette année que j'ai mon propre appartement, puis que je.
T'es pas en colocation avec 60 personnes.
Je suis avec ma blonde, mais je suis pas en colocation avec deux autres gars. Un peu jeune, que les trois, on n'est pas nécessairement les personnes qui se ramassent le plus, fait que ça finit pas super
que
propre.
Personne
c'est ça. Parce que tu finis par pas vouloir ramasser la marde de l'autre, mais là, toi aussi, t'en laisses. En tout cas.
Tu rappelles des belles images aux auditeurs.
C'est ça, c'est ça la colocation. Hein. Mais là, déjà mais non, que je suis bien tout seul.
T'es rendu à un autre niveau en plus. T'es nouvellement propriétaire de nouveau Tupperware grâce à ta blonde.
Aussi.
Mais si t'avais à changer quelque chose.
C'est un lave-vaisselle.
Hey, t'as-tu le trou? Oui, ça
non, 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 j'ai pas de trou dans mon appartement. Fait que j'ai vraiment juste. Je pourrais pas en avoir un lave-vaisselle, mais tu sais, probablement que beaucoup d'entre vous, vous avez des lave-vaisselles. Rappelez-vous, ça fait quoi de devoir tout laver à la main?
Aimez votre lave-vaisselle.
C'est long. Ah oui, profitez-en pour vrai.
Chouchoutez votre lave-vaisselle.
Profitez-en pour moi.
Dites-lui merci la vie pour le lave-vaisselle. Mais on fait des jokes, mais moi, je me souviens jeune de me dire, hey, quand je vais vieillir, c'est une machine à café.
OK.
C'était comme une machine à café à mon goût qui allait en faire un bon, qui était la chose la plus fun que j'avais hâte. Puis là, dans les dernières années, c'était un matelas, je l'ai changé, j'avais le mien depuis tellement longtemps. Je pense qu'il y avait le trou dans le milieu, là, où j'ai dormi le plus souvent, ça faisait une dizaine d'années, et je regrette en rien. C'est le plus bel achat que je me suis offert.
Dans les tu vois la différence?
Mon nouveau matelas a capoté. Puis je savais pas que c'était un de nos partenaires. Quand j'ai entendu dans le blog publicitaire, je me suis dit « Colin, tout est dans tout aujourd'hui. » Les gens parlaient de leur sommeil, mais moi, c'est... A1, là, je vous recommande, c'est sûr, sûr, sûr.
Puis tu dors-tu bien ces temps-ci? Parce que t'as comme lancé la conversation en disant plusieurs personnes dorment pas bien.
Ben, je me suis rattrapée.
C'est-tu ton cas?
Oui, c'est sûr que je manque un peu de sommeil, mais j'arrive pas à m'endormir. J'ai pas pris le beat de notre horaire.
Ouais.
Souvent, ça prend plus de temps. Puis là, moi, j'ai l'impression que les gens qui vont toucher à la rentrée dans quelques semaines, bouchez vos oreilles, je sais que ça donne des frissons, la rentrée. Mais le temps de refaire les lunchs, de repenser aux habits des enfants, les devoirs et leçons, la routine... Hey, ça fait en sorte que tu dors pas aussi bien que
la tête
tu dormais.
Roule.
Ben oui. Puis là, après quelques temps, quelques semaines, voire des mois, là, deux, trois, là, t'es reparti, puis tout va bon train. Mais on est là-dedans. Je pense qu'on c'est adaptatif. Entre vacances et rush de job, on est pas mal tous là-dedans. Mais 418-971-1021, c'était quoi l'appareil, le fonctionnel, l'électroménager qui a changé votre vie à un moment ou à un autre? Comme toi, ce serait un lave-vaisselle.
Oui.
Mathias a déjà entendu ça. Hey, on changera pas des vies aujourd'hui, mais il y en a un pour qui la vie est changée. C'est l'ex-conseiller COVID, Anthony Fauci. Il est déclaré coupable d'outrage au Congrès après avoir invoqué le 5e amendement, Matt.
Oui, puis ça a fait beaucoup de bruit la semaine dernière lors de son passage devant le Sénat. Monsieur Fauci, qui était de passage après avoir orchestré toute la réponse de la Maison-Blanche face à la pandémie de COVID-19. Là, à la suite de recommandations de ses avocats, M. Fauci, qui a décidé d'invoquer le 5e amendement à répétition pour garder le silence face à plusieurs questions qui étaient pressantes des sénateurs républicains ou qu'on remettait en question sa gestion de la pandémie, mais qu'on remettait aussi en question certaines allégations par rapport aux origines de la pandémie qui auraient été dissimulées par le gouvernement américain. On a décidé de garder le silence à l'aide du 5e amendement. Eh bien, aujourd'hui, il est reconnu coupable d'outrage au Congrès. Trois hommes dans la trentaine ont été arrêtés hier pour avoir tenté de fuir les policiers à pied dans le quartier de Léré. C'est hier soir vers 17h26 que les patrouilleurs du SPVQ ont procédé à l'interception d'un véhicule. Lors de cette interception-là, les trois occupants qui ont quitté à la course, qui ont tenté de fuir, deux suspects ont été maîtrisés assez rapidement. Le troisième a suivi dans les minutes suivantes. Et trois hommes qui ont été arrêtés pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire un trafic, ils seront rencontrés par les enquêteurs aujourd'hui. Et le gouvernement Fréchette, qui a profité de son dernier conseil des ministres pour donner de belles sommes à différentes entreprises, c'est 268 millions de dollars qui a été distribué en aide financière, notamment 217,5 millions à la multinationale Premier Tech de Rivière-du-Loup. Ça, cet argent-là va bénéficier à l'entreprise pour mettre en place une stratégie de 650 millions de dollars d'investissement aligné avec le plan stratégique de Premier Tech. Et je termine au sport avec Félix Auger-Aliassime qui a annoncé hier officiellement se retirer de l'Omnium Banque Nationale. Oui. La quatrième raquette mondiale, le dernier Québécois qui était en liste, puis notre plus grand espoir pour ce tournoi-là, sentait un inconfort lors d'entraînement lundi et mardi. Hier, a réessayé de s'entraîner, mais avait des difficultés à servir tout simplement. A donc dû renoncer au tournoi.
Merci Mathias. 25 degrés, c'est ce qu'on a actuellement. Ça peut monter jusqu'à 30. Et il y en a un qui sue sa vie tout l'été, c'est David Simard. On lui parle de l'autre côté de la pause de la ferme Simard et de son champ. Il va nous jaser de la détresse chez les agriculteurs, la santé mentale, comment il fait, lui, en tant que jeune, pour garder la tête hors de l'eau. Puis on va aller parler des récoltes aussi, parce que d'après moi, il y a une coupe d'épichettes de blé d'Inde qui vont se faire en fin de semaine. Le prix du maïs baisse dans les prochains jours. Mais c'est toujours le fun d'aller jaser à cet agriculteur qui a le nom du plus sexy agriculteur de la ville de Québec, mais ça, c'est Hello Derry qui le dit.
Le Pivard, 102.1. 100% parlé tout l'été.
Salut, salut tout le monde, 10h26 minutes. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Hey, nous autres aussi, on est vers la fin de la saison estivale. Je dis ça parce que les équipes reviennent progressivement à votre station préférée, Boulevard 102.1. On a des petites annonces ici et là qui seront faites dans les prochaines semaines, mais l'équipe que vous connaissez bien, sera fidèle au poste. Ça, faut le dire. Marceau qui revient la semaine prochaine, il sera avec Max et Jeff. Jeff qui reprendra la barre aussi de l'animation de l'émission du midi. Il est déjà là depuis une semaine avec toi, Matt.
Oui.
Et nous, on est dans cette zone qui s'appelle le point de Max. Puis Max, ben, il revient la semaine prochaine. Puis l'équipe du retour est déjà en place depuis lundi. Fait que c'est une super programmation avec des annonces qui vont s'ajouter. Puis ça, je pense que ça va faire votre bonheur parce que nous, on a quelques infos.
Il nous reste juste une chose à faire, Pascal, c'est trouver un nouveau nom pour le point de Max pour nous deux d'ici demain.
Oui, parce qu'on finit demain. 88-971-1021. On pourrait y aller avec un prix. Là, on a peut-être quelque chose, encore une fois, dans le sac à surprise. Mais je suis vraiment contente d'aller le rejoindre. J'ai eu l'opportunité de parler quelques reprises avec lui, puis c'est un fidèle de Boulevard 102.1. Il a surtout une vision très moderne de l'agriculture. Il est le fun à aller entendre sur plein de sujets. Il est au bout du fil, dans son champ, pas en bédaine, mais en train de travailler fort à la grande chaleur. David Simard de la ferme Simard, salut!
Allô, allô!
Merci d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui parce que, aussitôt qu'on peut parler d'agriculture, on essaie de le faire. Vous êtes ceux qui nous nourrissez, qui travaillez fort pour garder nos terres, pour que ça reste une richesse québécoise, puis bon, d'ici dans la région. Quand on voit, malheureusement, des problèmes de santé mentale chez les agriculteurs et qui reviennent à la une, parce que c'est pas depuis hier qu'on en parle, faut quand même donner quelques minutes à ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais sûrement que t'en entends parler dans ta communauté.
C'est tout le temps très important là, dans tout domaine confondu, mais particulièrement en agriculture dans les dernières années. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de ce côté-là là, pour essayer de plus possible de sensibiliser là, un peu tout le monde, là, que ce soit agriculteur ou un peu tous les intervenants du milieu qui sont très, très, très alertes là, à tous les signes qu'ils pourraient avoir. Là. Donc, il y a même les représentants, les directeurs de compte, les agronomes sont généralement formés aussi là, pour déceler là, des problèmes qu'ils pourraient avoir chez certains agriculteurs. Donc, dans les dernières années, là, il y a énormément d'efforts qui sont mis de ce côté-là.
On a donné des subventions pour les pertes de récolte, mais ce n'était pas tout à fait à point. On a essayé, avec des applications pour cette annonce-là qui a été faite aujourd'hui aussi, d'offrir un genre de cadran, un baromètre, on l'appelle le hockeyomètre, pour que les agriculteurs sur leur cellulaire soient capables de pister à quel moment ils ne se sentent pas bien, à quel moment dans la saison ça se passe un peu mieux qu'un autre. T'sais, on essaie d'avoir un peu ce baromètre du moral de la personne pendant plusieurs jours, plusieurs mois, voire l'année. Si on prend les subventions pour commencer, on en avait parlé ensemble. Est-ce que ça vous a aidé ou au final, ça a été plus coûteux?
Est-ce que ça a aidé? C'est sûr que, tu sais, en 2023, avec tous les dégâts qu'il y avait eu, il y a eu certaines compensations. Tu sais, toute aide est le bienvenu. Est-ce que ça a été suffisant? Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises là, qui sont encore en train de s'en remettre. Puis, quand on dit subvention, mais ça n'a pas été nécessairement, dans ce cas-là, des subventions. A été des prêts d'urgence. Donc, on est en ce moment à rembourser ces prêts-là, veut pas. Donc, c'est un endettement supplémentaire là, sur le dos des entreprises. Donc, oui, sur le moment, ça a été un plaster. Est-ce que ça a vraiment réglé le problème globalement? Je pense pas.
Est-ce que ce remboursement-là se fait bien, tu crois, pour la plupart des gens qui ont été aidés avec le prêt occasionnel, disons-le comme ça, du gouvernement?
J'imagine que oui, mais vous savez, le taux d'endettement des entreprises agricoles au Québec, là, il est démesuré par rapport au pourcentage de profit que génère une entreprise agricole. Donc, à toutes les fois qu'on en rajoute sur le tas, bien évidemment, là, ça devient de plus en plus dur à supporter. Puis heureusement, on a eu peut-être un petit break sur le taux d'intérêt dans les deux dernières années, là. Mais il y a été une période où on payait du 6-7% d'intérêt, là. Donc, les entreprises là pèlent un peu les dettes par en avant. Celles qui s'en sortent mieux en agriculture en 2026, c'est les entreprises qui sont peu endettés, qui sont en business depuis extrêmement longtemps, puis qui n'ont pas nécessairement fait d'acquisition d'investissement. Ceux qui sont peu endettés, là, ils s'en sortent quand même relativement bien.
David Simard de la ferme Simard, on peut aussi donc parler de cette relève-là qui se fait difficilement. On a encore eu des statistiques dernièrement comme quoi il y en a plein de fermes qui pourraient juste terminer leurs opérations dans le futur, un futur qui est assez court, là, les 5 prochaines années. Mais d'un autre côté, j'ai jamais vu autant de jeunes s'intéresser à l'agriculture, au fait de cultiver des légumes, au fait de retourner à la terre, au fait de... Entends-tu parler de ça, toi?
Ben oui, c'est sûr et certain qu'au niveau de l'intérêt, ça, c'est clair qu'il y a un intérêt. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient vivre de l'agriculture, qui souhaiteraient se lancer en affaires. Mais une fois qu'ils se butent aux réalités qu'on vit en ce moment, avec le coût des terres, avec même le coût des équipements, puis le montant que ça prend à investir pour se lancer, en démarrer ou même acquérir une ferme, il y a énormément de gens qui se découragent. Là. C'est un très, très faible pourcentage qui réussissent à réaliser ça. Puis après ça, ben l'âge moyen en agriculture monte à chaque année. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui s'approchent de leur retraite. Puis il y en a beaucoup, beaucoup moins qui démarrent. Là. Donc, l'âge moyen monte. Puis, je pense que c'est plus de 50% des entreprises agricoles là, qui n'ont pas nécessairement de relève planifiée. Là. Donc, ce sera soit des ventes annexées à d'autres fermes ou carrément des démantèlements d'entreprises là, qu'on va vivre. Là. C'est déjà commencé, là, mais ça va s'amplifier dans les prochaines années.
Et une des choses qui fait en sorte que certaines personnes sont réticentes, c'est les... C'est la variété dans la rentabilité en raison de la température, de la météo. Aujourd'hui, on apprenait ce matin que la saison du blé d'Inde, ça se passait très, très bien en raison notamment de la température. Est-ce que c'est le cas pour la majorité des produits en ce moment?
Ce qu'on voit en ce moment, c'est que le temps frais du mois de mai, puis début juin, il a retardé énormément les cultures. Particulièrement dans la région, dans l'ouest de la province, là, où ce que eux, normalement, ils arrivent beaucoup en avance par rapport à ici, à Québec. Donc, ça a retardé. Eux autres, il y avait plus de retard que nous, on en a. Ce que ça fait, c'est que quand on arrive dans le cœur de la saison, ben là, au lieu d'avoir une production qui est un peu décalée entre les régions, ben, on arrive où ce qu'on a un paquet de produits, tout le monde en même temps. Fait que ce que ça a tendance à faire, c'est d'inonder le marché, puis nécessairement faire tomber les prix. Donc, c'est bon pour le consommateur, évidemment. Pour nous autres, en général, c'est pas si bon que ça parce que, comme on l'a dit, la rentabilité est quand même difficile. Puis quand un marché s'écroule, ben, il y a énormément de pertes financières. Puis aussi du stock qui est invendu, là, puis qui sort pas du champ. On l'a vécu dans la saison des fraises.
Ouais.
Puis je m'attends à ce qu'on le vive également là, dans la saison du maïs sucré. Là. Probablement que d'ici 2 semaines, il va y avoir des abandons au champ. Là. C'est pas mal certain.
Ah ouais, OK. Bon, ça veut dire qu'on va peut-être perdre des récoltes dans les prochains jours.
C'est comme ça chaque année. Là. C'est peut-être un peu plus accentué cette année. Puis le prix a parti très, 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 très haut dans le maïs sucré. Donc, ça donne une impression là, que le prix s'effondre. Mais on va arriver là, dans les prochaines semaines à peu près avec un prix qu'on a connu dans les dernières années, là, autant à la ferme que sur les tablettes. Donc, c'est pas les articles qui sont sortis, là, je veux pas, l'information est
erronée.
Pas erronée, elle est bonne, mais elle est un peu modelée pour faire un peu plus sensationnel que celle-là. Mais
vous, ça peut être un avantage parce qu'il y a des gens qui vont aller en acheter en se disant il est moins cher. Mais toi, tu dis non, c'est la norme des prix, là, ce qu'on va voir en fin de semaine.
Assurément. À chaque année, le prix s'écroule dans le maïs sucré. À chaque année, il y a un moment où, ça ne vaut pas nécessairement la peine de le récolter tellement le prix est bas sur le marché. Donc, les gens en abandonnent au champ parce que ça coûte plus cher de le récolter puis de le transporter pour le vendre que de le laisser là. Donc, pour nous, ça paraît fâchant un peu là, quand on dit ça comme ça, mais pour nous, c'est très banal. Là. C'est des choses qui arrivent là, à peu près à chaque année. Là.
Petite incursion dans tes travailleurs aussi étrangers qui viennent te donner un coup de main dans les semaines avant, pendant et après la haute saison, finalement. David, est-ce que tu en as de plus en plus à chaque année ou c'est pas mal les mêmes qui reviennent?
Moi, c'est les mêmes qui reviennent. Mais évidemment, là, plus on a de croissance dans l'entreprise, plus on va en engager. Moi, j'en ai trois. Avant, j'en avais deux. Là, j'en ai trois. L'année prochaine, je planifie peut-être en avoir quatre ou cinq. Nécessairement, quand on perd un employé québécois, ça devient difficile de le remplacer parce que, bon, on n'a pas nécessairement de Québécois qui veulent travailler tant que ça sur les fermes. Donc, on remplace par des travailleurs étrangers là, qui, eux, sont super contents d'être ici. Puis, c'est vraiment, pour plusieurs, un game changer là, dans leur vie là, en général.
Si tu prends les deux que tu as avec toi depuis quelques années, là, quand ils retournent dans leur pays, je sais pas d'où ils viennent, là, mais quand ils retournent dans leur pays, leur vie a totalement changé au niveau financier?
Ben, c'est une stabilité. Moi, c'est des travailleurs guatémaltèques, donc le niveau de vie au Guatemala est très, très bas. Le salaire minimum là-bas, c'est autour de 2 $ canadiens là, de l'heure. Fait qu'un travailleur gagne entre 16 et 20 $ canadiens par jour. Donc, c'est sûr qu'avec ici, les salaires, bon, c'est les normes du travail québécois canadienne normale. Donc, puis ils font plusieurs heures par semaine. Là, donc, ça peut être facilement 7-8 fois là, le salaire qu'ils gagneraient au Guatemala. Donc, quand ils retournent chez eux après un bon 4 mois de travail, ça couvre à peu près les frais qu'ils ont à l'année là, pour la famille. Donc, la maison, l'école, l'électricité, l'eau.
Wow.
Okay. Là-bas, tout est à peu près privatisé. Là, donc l'eau potable est privatisée. Les vidanges aussi. Donc, ils payent sur à peu près tout. Là. Donc, ça leur permet de couvrir une année. Là, mais ça reste qu'ils travaillent quand même quand ils sont là-bas. Là. C'est des gens très, très, très travaillants. Là. Ils vont tous ou à peu près travailler au champ là, quand ils arrivent au Guatemala.
Oui, ils continuent leur année d'agriculture. Merci beaucoup, David Simard de la ferme Simard. C'est un plaisir de t'avoir parlé.
Ça me fait plaisir, merci.
Bonne fin de journée. C'est sous le soleil que David Simard travaille sur la côte de Beaupré. J'aime ça parler avec les agriculteurs parce qu'il y a quelque chose qui, moi, me fait peur, c'est dans les futures années, l'impossibilité finalement de faire la passation des terres. Parce que si toi, tu as un père qui est dans l'agriculture et que ça ne te tente pas de continuer, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est tellement cher vendre sa ferme. Souvent, il faut qu'il la démantèle. Donc, équipement en encan, si c'est des vaches en encan, si c'est des troupeaux, c'est tellement cher revendre à quelqu'un. Puis, il y en a qui ont été intéressés par l'appât du gain, donc des terres vendues à des gens à l'étranger. Ça a été un peu là, travaillé au niveau du gouvernement pour pas que ça soit énormément de gens de l'extérieur du pays qui achètent nos terres super précieuses. Mais c'est super tough, et j'arrête pas de mettre le mot, là, mais de garder un peu cette richesse-là dans notre culture.
Ben, faut que tu croises les doigts pour qu'un de tes enfants ait cette passion-là.
Ouais.
Je pense que t'as pas le choix rendu là. Par exemple, mon père est agriculteur de terre, là, il n'y a pas d'animaux. Mais moi, ça m'intéresse vraiment pas. Ça m'a jamais intéressé.
On est surpris.
Ah non, il n'y a rien de surprenant là. J'ai aucun intérêt là-dedans. Mais par exemple, mon frère le plus vieux,
ouais,
lui, chaque année, il va faire des semences. Il récolte avec mon père. Il prend congé à sa job pour aller
pour faire la
sur
saison.
La terre, pour okay. aller faire des saisons. Ouais. Fait que lui, c'est un passionné.
Il
lui,
voudrait surprendre la terre?
Ben, potentiellement, oui. Lui, il tripe bien raide.
Hey, je
lui,
savais pas que c'était dans ta famille. Voudrait, ouais. Il y a des questions qui se perdent des fois, même quand tu côtoies des gens au jour le jour. Peux-tu me dire si, puis on va prendre quand même une minute pour ça, peut-être que tu ne voudras pas aller là, mais tu sais, tes parents, à un moment donné, ils vont vouloir avoir leur retraite.
Oui.
Comment ils vont s'assurer d'en avoir une? Parce que c'est aussi, c'est complexe. Là. Si c'est ton frère, par exemple, qui reprend la terre, peut-être qu'il va donner un montant d'argent à tes parents, mais encore là, ça ne sera jamais à la hauteur de ce que tes parents possèdent.
Bien, c'est ça. Ben, dans le cas de mon père, c'est comme son deuxième travail. Il est planificateur
okay.
financier, puis il a ses terres agricoles okay. aussi.
Lui,
c'est
assuré d'avoir...
Ben, puis c'est son hobby aussi, ses terres agricoles. Il a grandi sur une ferme, fait qu'il a décidé de... Parce qu'il aime ça, lui, c'est un passionné.
Pas,
exactement. Okay. Sauf qu'effectivement, t'as beaucoup d'agriculteurs qui, malheureusement, des terres, ça vaut une fortune.
Oui.
Fait en termes de valeur, un agriculteur, c'est souvent très, très, très riche, là, dans un sens théorique, en termes de valeur.
S'ils se mettent à tout vendre ce qu'ils ont
Exactement.
Et rembourser leurs prêts et rembourser leurs dettes, parce que ça aussi, c'est très élevé.
Sauf que, annuellement parlant, des terres, c'est pas bien, bien rentable
non.
tant que ça.
Non.
Fait qu'au final, ces personnes-là travaillent, puis n'ont pas nécessairement le salaire qui va avec toutes les heures qu'ils mettent. Puis comme tu as dit, rendu à la retraite, finissent par passer la terre à descendance. Fait que cette richesse-là. Ce qui est fou, c'est que cette richesse, toute la richesse qu'ils ont, ben, ils la touchent presque jamais dans leur vie.
Pour avoir travaillé comme des fous dans bien des circonstances.
Fait que c'est une vie de sacrifice.
Si vous avez des histoires, 418-971-1021, c'est bien résumé. Puis je souligne le travail de Gabriel Hardy, député fédéral sur la côte de Beaupré, parce qu'il visite des fermes en ce moment. Allez voir ses réseaux sociaux, c'est vraiment le fun. Il est allé parler à ben du monde, il avait les deux pieds dedans. Et il y a quelque chose de différent dans la politique qu'il fait, mais sa série agricole est vraiment intéressante. On revient dans Le Point de Max, sans Max, c'est comme ça qu'on peut le décrire en ce moment. J'ai hâte d'aller parler à Éric Ouellette, qui est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et aussi au Collège militaire royal du Canada, parce qu'on a appris qu'il y a des soldats britanniques qui vont s'entraîner sur des simulations virtuelles. Ça ressemble à Fortnite. Fait que, tu sais, la fameuse phrase « Ah oh, là, ça amène les gens ou les jeunes à utiliser une arme à feu », des mauvaises habitudes, peut-être une désensibilisation à la violence. Mais là, on est rendu dans un simulateur qui ressemble à Fortnite pour entraîner des soldats. Puis quand on lui a parlé, il a dit « Ah, mais ça existe depuis un bout au Canada. » Fait qu'il y a des techniques modernes d'entraînement. On va aller explorer ça avec Éric Ouellette après cette courte pause. 100% parler tout l'été, on change pas une bonne formule quand ça fonctionne. Mathias Turcotte, salut.
Bonjour.
T'as pas bougé de ton siège depuis qu'on est en onde ensemble depuis 10 heures. Mon nom, c'est Pascal CV. On est vraiment content d'être avec vous sous le soleil. C'est magnifique à Québec. Je peux pas dire autrement que crème solaire, bouteille d'eau, plaisir, puis rester à l'écoute de Boulevard. On passe la journée ensemble. Puis le scénario d'aujourd'hui, ça pourrait monter jusqu'à 30 degrés là, en termes de maximum. Demain, c'est la même chose. Fait qu'on est sûr qu'on a un super beau 48 heures pour profiter de l'été. C'est sûr que si vous êtes dans l'habitacle de votre voiture, ça prend un peu d'air climatisé quand vous êtes pris dans un ralentissement. Voyez-vous, j'en vois un, moi, sur Laurentienne, direction sud, pour l'embranchement de la capitale. Il y avait quelques enjeux, Mathias, là, tantôt.
Oui, bien, dans le secteur de Laurentienne sud, effectivement, il semble avoir un problème. Un peu plus tôt, il y avait une panne, là, mais... Je pense pas que c'est la panne un peu plus tôt qui crée une problématique. Il y a clairement quelque chose. Laurentienne, direction sud, à hauteur de Boulevard des Cèdres, proche du centre Vidéotron. C'est complètement bouché présentement. Là. Donc, ça crée un ralentissement aussi sur Capitale lorsque tu veux sortir sur Laurentienne en direction ouest.
Okay.
Capitale, direction est, aussi un ralentissement dans le secteur de Laurentienne. Ça remonte jusqu'à Première Avenue. Et Laurentienne, direction sud, en plus du ralentissement vis-à-vis du centre Vidéotron, aussi pour prendre Capitale, c'est quand même pas mal d'attendre dans le secteur. Sur la rive sud, vous commencez à connaître là, la 20 ouest entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge. Et Henri IV, direction sud, à hauteur de Charest, un peu d'attente aussi. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto. Et surtout, si vous avez des informations sur ce qui se passe sur Laurentienne à hauteur du centre Vidéotron.
Si ça vous tente de profiter du week-end, il y a Cigale qui commence dès demain soir, Benny Benassi, DJ Champion qui vont être dans ce super, super, super festival sur la plage à la baie de Beauport. On peut pas se baigner, là. On est encore dans la nouvelle où l'eau n'est pas bonne pour se baigner, mais ça commence dès demain. Mais je voulais aussi vous parler du Raid Bras du Nord Promutuel Assurance. C'est le plus gros rassemblement de vélos de montagne au Canada. Mettez ça à votre horaire si vous tripez là, sur le vélo ou vous en faites. 22e édition du 21 au 23 août 2026. C'est des inscriptions qui se terminent dans quelques jours, donc faudrait le faire là ou dans les deux prochains jours, si ça vous intéresse. C'est 5 distances de course de 20 à 75 km. On a un défi à la hauteur de tous les niveaux, finalement. C'est un événement qui rassemble autant les cyclistes aguerris que les amateurs et les familles. C'est pour tout le monde, là. Et on peut avoir deux soirées de spectacle gratuites là-dedans. Une ambiance festive pour toute la famille. On a pensé à tout le monde. Puis si t'es pas un cycliste, ben va juste voir la programmation. Tu vas certainement y trouver ton compte, en plus de pouvoir voir les compétitions entre les cyclistes. Si tu veux de l'info, c'est très www.raidbrasdunord.com. Il n'y a pas moyen de profiter de l'été autrement à Québec qu'avoir du fun. Puis il y a tellement d'événements pour en avoir justement. Et on est tombé sur une nouvelle qui a attiré notre attention. C'est cette nouvelle où on dit que les soldats britanniques vont s'entraîner sur des simulations virtuelles. Ça ressemble à Fortnite. C'est une entreprise anglaise. Elle s'appelle Skyroll. Elle vient de décrocher un contrat. Là. C'est une espèce de gros contrat à 2 milliards de livres, la monnaie britannique, là, pour former les soldats sur les environnements virtuels ultra sophistiqués. On ne parle pas de jouer à un vieux jeu de Nintendo 64. Là. Et c'est comparable à des jeux que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle un jumeau numérique. On a un digital twin. C'est un modèle virtuel de machine. Puis ça permet de reconstituer un objet existant pour tester de façon virtuelle plein d'usages, des comportements, de voir comment on évolue dans le temps, comment on réagit à des situations. Puis c'est un modèle qui a été beaucoup utilisé dans l'industrie et l'énergie pour optimiser des performances puis le maintien d'équipements, des compétences complexes, par exemple. Mais c'est aussi utilisé dans le domaine militaire. Puis là, on a appelé tantôt Éric Ouellette, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Puis lui, il nous disait « Ah, mais c'est pas nouveau. On a plein de techniques modernes pour s'entraîner, pour entraîner nos soldats. » Puis ça a attiré notre attention, surtout qu'on est dans des zones conflictuelles un peu partout dans le monde. Puis on s'est dit « Bon, ben parfait, M. Ouellette, on vous invite en onde. » Bonjour, M. Ouellette.
Bonjour.
Vous n'étiez pas surpris quand on vous a jasé de ces simulateurs virtuels-là?
Non, pas du tout. Ça fait, je dirais, au moins une vingtaine d'années que ça existe. Ce qui est peut-être différent, c'est de rendre ça plus systématique dans l'entraînement des soldats, là. Donc, les Britanniques vont faire des investissements importants. Le Canada aussi prévoit faire des investissements importants là, dans toutes les unités terrestres, au moins là, pour l'armée de terre, pour avoir le même genre de simulateur. Il y en a déjà en place, mais c'est peut-être un peu plus... systématisé, mais ça va le devenir très rapidement.
Et ça, c'est des simulateurs qu'on va pouvoir trouver juste sur les bases militaires. C'est pas vous et moi qui allez pouvoir se procurer ce simulateur-là?
Non, tout à fait. Puis, l'avantage, c'est que ça permet de tout simuler. Donc, le type d'arme que vous avez, le type de munitions que vous utilisez, le type de terrain que vous allez, le type d'ennemi, etc. Donc, on permet de... Les gens qui programment ces jeux-là sont eux-mêmes des spécialistes, donc c'est pas pour s'amuser là. Mm-hmm. C'est vraiment pour entraîner les soldats sur des aspects spécifiques.
Peut-être que vous allez trouver ma question stupide. Vous avez le droit, M. Ouellette, en tant que professeur titulaire. Dites-moi, ça se peut-tu qu'on, si on s'entraîne sur des simulateurs, à un moment ou à un autre, on vient qu'à avoir moins de système D, de système débrouillardise? Je m'explique, parce que la situation, elle se termine devant nous. Donc oui, on a à gérer une formule adaptative, mais elle est quand même limitée.
Oui, mais en fait, ces systèmes-là permettent d'entraîner sur d'autres aspects. Je vais vous donner quelques exemples ici, là. Par exemple, si vous avez un système où on demande à des soldats d'entrer dans une maison ou dans des édifices, l'idée, c'est pas de savoir comment faire ça, mais de développer les facultés cognitives où ils vont détecter quelque chose qui est dans l'environnement qui semble être pas à sa place. Et ça leur permet de détecter s'il y a des mines, là, ou ce qu'on appelle en anglais des booby traps. Et donc, ils sont capables plus facilement de détecter qu'il y a l'organisation de l'environnement, il y a une anomalie quelque part. Et donc là, il faut être vraiment prudent. Il y a peut-être une mine qui est cachée là. Donc, c'est plus pour développer ce genre de capacité-là que comment rentrer dans un building de façon concrète, réelle. C'est parce qu'il y a aussi de l'entraînement. Ils ont des édifices simulés, par exemple, pour ce genre d'opération-là. Donc, ça permet d'entraîner plus les facultés cognitives des gens.
Est-ce que vous pensez que, par exemple, l'armée canadienne pourrait avoir plein de simulateurs de ce type-là et développer des stratégies qui sont purement liées à l'armée canadienne et qu'il faudrait avoir un devoir de sécurité beaucoup plus important parce que ça pourrait être piraté? C'est-tu des choses auxquelles on doit penser dans tout ça?
Ce genre de simulateur-là, c'est plus pour le soldat ordinaire, là, tactique, qui va faire des opérations dans différents contextes. Les risques de piratage sont relativement faibles. Quand on parle de stratégie, là, on parle d'une formation complètement différente. Là, c'est pour les officiers. Et là, il existe des simulateurs, mais ils sont complètement différents. Là, c'est pas, vous voyez pas de terrain, vous voyez des cartes avec des unités qui sont représentées. Là, c'est beaucoup plus abstrait. Donc, non, je pense pas qu'il y ait de grand danger à ce niveau-là.
OK, donc ça, on peut juger que ce sera sécuritaire. Quand vous parlez de techniques plus modernes d'entraînement, vous faisiez référence à quoi dans notre appel téléphonique?
Ben, en fait, c'est l'exemple que j'ai donné, donc de développer des capacités cognitives, de détecter des anomalies dans le terrain. Ouais. Ça, c'est plus moderne. On le faisait autrefois, et je suis certain qu'on le fait encore, mais c'est plus difficile parce que là, il faut que les instructeurs aient par exemple, un tireur caché quelque part, puis après ça, ça prend une autre situation. Donc, c'est difficile de recréer toutes les situations possibles de façon concrète là, dans la réalité. Ces systèmes-là permettent de recréer toutes sortes de simulations. Et donc, ça permet d'entraîner les soldats pour être plus capables de détecter les anomalies dans l'environnement qui probablement cache une menace sérieuse.
Est-ce qu'on pourrait, à travers le temps, pour le recrutement des militaires canadiens, aller justement dans ces sommités de jeux vidéo qui, pour le plaisir, depuis de nombreuses années, jouent à Fortnite, sont vraiment bons? On pourrait aller piger dans ces jeunes-là?
Il y a déjà eu quelques petites expériences, si je ne m'abuse, aux États-Unis, lorsqu'il y a des foires de recrutement de personnel, ils ont des jeux vidéo qui n'existent pas dans le monde commercial. Et ça permet de détecter s'il y a des gens qui ont des réflexes plus rapides. Donc, ça permet un peu de faire ce genre de choses-là, mais ça permet aussi de faire de la promotion. Donc, vous allez être entraîné sur des jeux comme ça encore plus sophistiqués. Donc, si vous êtes intéressé, vous signez en bas, puis on vous embarque pour une belle aventure. Donc, ce genre de promotion-là était déjà fait. Puis, il va falloir s'attendre qu'il y en ait de plus en plus.
Que ça vienne à ce niveau-là. Tranquillement, pas vite, on apprend que le recrutement se fait bon train pour l'armée canadienne avec la recrudescence des conflits. Ça a comme ramené un peu l'attention à ce niveau-là. Mark Carney fait beaucoup d'investissements. On essaie de ne pas perdre ce qu'on avait perdu sous le joug de Justin Trudeau. Mais on apprenait dans les derniers 24 heures que le français dans l'armée canadienne recule. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans le sens où tout le monde va parler la même langue puis on va aller dans un alignement?
Non, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que je pense que les forces armées, en tout cas du moins le haut commandement, là, comprennent très bien que le bilinguisme dans les forces armées, c'est un élément important de renforcer l'unité nationale. Et donc, je pense que ce qui va se produire, maintenant qu'on a des ressources beaucoup plus qu'avant, il va y avoir beaucoup plus d'investissements dans le bilinguisme. Un des problèmes que les officiers, en tout cas les gens, mes étudiants, les officiers anglophones, ils demandaient d'avoir des cours de français, mais ils n'étaient jamais disponibles parce qu'il n'y avait pas assez de sièges disponibles pour libérer ces officiers pour qu'ils puissent prendre des cours de français. Donc, en fait, c'est pas le manque d'intérêt ou le manque de compréhension de l'importance d'entretenir l'unité nationale. C'était juste le manque de ressources. Mais là, avec les ressources qui sont disponibles, je pense que le français va probablement faire du progrès. Parce que c'est pas juste ça, ça permet d'avoir après ça des cours qui seraient seulement disponibles en anglais, il va y avoir une version française. Ce qui a besoin d'être traduit va l'être traduit immédiatement, surtout avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc, non, je pense que au contraire, je pense qu'ils vont renforcer le bilinguisme dans les forces armées parce que les ressources sont disponibles.
Ça permet aussi d'avoir une communication peut-être plus échelonnée avec nos alliés dans certains contextes. Merci beaucoup, Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Pareillement.
Une bonne journée. Vraiment intéressant, Éric Ouellet. Les soldats britanniques qui vont s'entraîner sur des simulations virtuelles qui ressemblent à Fortnite. On partait de cette nouvelle-là pour avoir la conversation. Semble-t-il que finalement, c'est échelonné même au sein des armées canadiennes, des groupes de notre armée canadienne. Alors, c'est important de savoir qu'on s'en va vers cette technologie-là. Elle est complémentaire. C'est un peu ce que j'ai compris. C'est des circuits qui sont fermés, donc il n'y a pas de risque de piratage. Tu sais, si on commence à ne pas sécuriser ces choses-là, on est assez bon pour ouvrir les portes. Puis il y avait plein de nouvelles aujourd'hui là-dessus, là, pour que les gens viennent un peu voir à l'extérieur ce qu'on fait au Canada, puis qu'on n'ait pas toute la sécurité pour protéger nos données. Encore aujourd'hui, on parlait de centrales hydroélectriques qui pourraient être bloquées. Puis à un moment donné, t'ouvres ton lavabo, puis il n'y a rien qui coule, puis tu te demandes pourquoi, mais c'est parce qu'on ne l'a pas protégé. Il ne faudrait pas que ça arrive aussi dans nos techniques de combat, là, si on veut améliorer l'armée ou encore garder une certaine discrétion.
Mais j'ai l'impression que la stratégie, c'est vraiment d'aller améliorer les réflexes, l'aspect cognitif,
ouais,
la réaction. Puis en plus, parce que l'aspect physique, on le fait déjà très bien, mais d'avoir des outils comme ça qui peuvent aller pousser les réflexes au bout, j'ai envie de dire, parce qu'on ne réalise pas là, dans nos têtes, les gamers, c'est comme les gamers sont assis dans leur chaise puis tout, mais ces personnes-là, ceux qui game pendant des heures et des heures, leurs réflexes, c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Des fois, par contre, je me demande si le système D n'est pas affecté parce que tu es habitué d'avoir des balises. Tu n'as pas toutes les situations possibles devant toi, mais M. Ouellet nous a bien expliqué. Non, non, c'est complémentaire. Hey, merci à Ben, tu lui as parlé au 88-971-1021. On a un camion semi-remorque avec un 53 pieds comme trailer qui est remorqué et c'est pour ça qu'il y a ralentissement sur Laurentienne. Donc, c'est à cause de la panne. On procède au remorquage, mais ça a ralenti le secteur. Moi, je le vois, ça bouge pas. On revient avec l'open mic, Mathias?
Oui.
Audrey Pinchot qui s'amène en studio. On va recevoir son invité. Restez là dans le Point de Max.
Le Point de Max, formé et rocké. Nous sommes Boulevard 102.1. Le Point de Max. Les développements et le wrap-up de ce qui fait parler aujourd'hui. Voici le Point de Max. 100% parler tout l'été. Let's go!
Oui, puis ce soleil-là fait du bien. Je pense qu'il fait du bien à tout le monde. Peut-être pas si vous êtes pris dans votre voiture. On va prendre un peu d'eau puis on va mettre l'air climatisé. Matt le disait sur Laurentienne, direction sud. C'est le Capharnaüm en ce moment. On est en train de remorquer un poids lourd. Désolée, ça va prendre un petit peu de patience. Mais sinon, 27 degrés et 30 qu'on attend aujourd'hui, ça fait du bien, Audrey Pinchot.
Moi, ça ajoute tellement sur mon moral, la température.
Ça change tout.
Hey, mon Dieu, fait que moi, très de bonne humeur aujourd'hui.
Très de bonne humeur.
Très de bonne humeur aujourd'hui.
On a eu un peu chaud pour certains la nuit dernière.
Oui. Ben là, c'est
habitué d'ouvrir les fenêtres. C'était comme notre air climatisé naturel.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que quand t'as pas d'air climatisé, mettons, t'es en appart, c'est peut-être un peu moins le fun. Là. Ça, je comprends ce bout-là, je l'ai été longtemps. Là.
T'es-tu correct, toi, en appart, Mathias? T'as pas de la vaisselle, mais t'as-tu l'air
climatisé? Non, je suis rendu avec mon air climatisé dans ma chambre. Fait que je dors très bien. Mais dans le salon, il fait un peu chaud. Hein, c'est ça.
Faut que t'en mettes dans la chambre pour au moins être sûr d'avoir un bon sommeil.
C'est ça, la stratégie.
Oh boy. Ouais, mais ça, je suis contente pour toi parce qu'il nous confiait que lui, il n'a pas de lave-vaisselle. Fait que...
Ah, OK, fait que c'est la vaisselle à la main.
Oh, oui,
il
pas le
est
choix.
Le lave-vaisselle.
Mais le pire, c'est que j'ai fait ça vraiment longtemps. Moi, ça a pris des années et des années avant que j'aie un lave-vaisselle.
Puis quand tu l'as, tu dois être content, maudit.
Oui, mais moi, ça a comme fait un drôle d'effet. C'est comme si je me suis comme rebellée de la vaisselle, point. Je l'ai tellement faite qu'on dirait que j'ai vraiment de la misère. Ça, c'est la tâche. C'est la tâche d'envie, moi, la vaisselle qui m'insulte.
Ouais. Parce qu'il faut quand même l'assister, la vaisselle. Là. Il fait pas tout.
Ben, faut-tu le vide, faut-tu le remplir. Ouais, tu vas me dire que c'est pas long, c'est ridicule,
ouais,
mon
ça.
Affaire. Mais...
Faut que... Puis je vais utiliser le pire terme pour ça. Faut que tu torches ta vaisselle avant de la mettre dans la vaisselle.
Puis je déteste les gens qui la torchent pas avant de la mettre dans la vaisselle. Mon chum est de même. Fait que là, tu l'ouvres puis ça sent l'iable.
Non, puis pas juste ça. Ceux qui vont mettre la vaisselle dans le lavabo en attendant de la torcher pour la mettre dans le lave-vaisselle. Pourquoi tu n'arrêtes pas tout de suite pendant que c'est plus facile?
Ouais, mais
quand
c'est
vous,
tout ça.
Quand vous dites torcher avant de mettre dans la vaisselle, on fait juste ça rincer puis on la met après.
Rince, une petite brosse, ça dépend ce que tu
fais. Il ne faut pas que ça reste collé. Là, c'est parce que si, mettons, là, je sais pas, tu as mangé de quoi avec du fromage, Matt, OK? Puis ça reste dans l'assiette. Mais ça va cuire au lave-vaisselle, ça. Là. Ça va croûter ton assiette.
Tu as des plats qui restent marqués à
fait
vie.
Fait que tu grattes un peu avant de le mettre dans la vaisselle.
Oui, il faut que tu pré-laves cette affaire-là. Là.
Fait que dans le fond, c'est pas si cool que ça, un lave-vaisselle.
Ah, moi, je m'en passerai jamais de toute manière.
Ça dépend. C'est sûr que si t'es deux,
ça change pas grand-chose.
Mais quand t'es plusieurs ou quand tu reçois
famille,
c'est très utile.
Ah, tout le temps, tous les jours.
On aime.
Moi, c'est l'histoire de ma vie. J'adore le lave-vaisselle.
Oh, ouais, hein?
J'ai des belles tasses à café en poterie là, d'artistes que j'aime.
Ben, oui.
Des fois, je la prends pas parce qu'elle va pas au lave-vaisselle.
Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire.
Je vais mal.
Tu t'empêches de te servir de cette vaisselle-là pour pas avoir à la laver manuellement.
En semaine, oui.
Ça, c'est très drôle.
Ou je la laisse puis mon chum la lave. Je le remercie.
Hey, je pense qu'on pourrait faire littéralement une demi-heure là-dessus. Honnêtement, j'ai tellement à dire sur la vaisselle,
hey,
mais...
Sérieux?
Ça intéresse pas les gens.
Faut qu'il y aille au lave-vaisselle.
Je te comprends. Je te comprends, puis moi, pire que, comme je te dis, je suis vraiment mauvaise. S'il faut que je donne quelque chose à mon chum, il le fait pas nécessairement comme je voudrais que ce soit fait, mais je peux pas chialer parce que je le fais pas.
Puis il le fait, c'est ça.
Il le fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment la tâche qui me pue au nez dans la vie, là. C'est tout ce qui touche la vaisselle.
Puis le pire, c'est que c'est tellement pas long. On a eu tout faire de la vaisselle.
C'est super long.
Mais non, c'est pas long faire de la...
Si tu dis que c'est pas long, ça veut dire que t'es le genre de gars que les Tupperware sont encore glissants.
Non,
après
non,
que
non, là, t'exagères, Pascal. Ce que je veux dire, c'est que ça prend pas des heures, là.
C'est parce que t'as fait instantanément après avoir mangé.
Ouais, c'est ça, exact. Tu manges, t'as fait tout.
Mais
suite,
t'es bon.
Là, ça se fait rapidement.
T'es vraiment bon. Parce que moi, je pense que le problème, il est là. Moi, tu vois,
laisses tout coller.
Ben non, mais c'est parce que quand j'ai fini de manger, c'est comme si là, ça signe le début de la soirée. Puis j'ai plus le goût de rien faire de productif. J'ai donné dans ma
moi,
journée.
Moi, j'auto-nettoie pendant que je cuisine.
Oui, ah, mon Dieu, moi aussi, ça,
c'est
par exemple.
C'est vraiment ma façon de faire. Ma sœur, elle a... met tout à piler dans le lave-vaisselle, dans le lavabo.
Les armoires à moitié ouvertes parce qu'elle a utilisé des épices.
Le pot de... Ça m'angoisse, ça me crée un stress.
Tu peux pas manger ton repas en toute zénitude avec une cuisine en bordel.
Non.
Je ben, comprendrais jamais
avant,
ça.
Avant, je le faisais ça. Avant, je cuisinais. Puis ah, tout, c'était bordel partout. Puis là, maintenant que j'ai changé d'horaire, étant donné que je fais aussi de retour, je reviens plus tard. Fait que là, je me rendais compte, OK, tout décale, puis je finis par pouvoir m'asseoir vraiment tard. Fait qu'à partir de maintenant, j'ai appris à le faire au fur et à mesure, puis je me suis rendu compte que...
Ça fait bien prendre le poivre puis le remettre dans l'armoire. C'est pas si compliqué, ça va bien.
Hey, on a fait une méchante bulle. Notre invité est crampé à côté. D'après moi, il attend son tour.
Oui, mais on va y aller. On y va.
On y va-tu?
À Boulevard, il y a un moment où on prend le temps. Le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
On aurait pu continuer, mais j'ai l'impression qu'on faisait titiller notre santé mentale avec ce sujet-là.
Oui, moi, c'est vraiment c'est un facteur important dans ma santé mentale du quotidien. Vous me direz qu'il y a des problèmes vraiment pires que ça dans la vie, je vous l'accorde. C'est un peu de ça qu'on parle là, ce matin, justement, la santé mentale. Puis on va essayer de faire ça d'une façon différente. Je m'explique. On a souvent tendance à vouloir parler avec des psychologues, des travailleurs sociaux. On vous donne des chiffres, puis écoute, je pourrais en donner, mon Dieu, des tonnes et des tonnes. Encore hier, il y avait deux articles super intéressants qui sont sortis sur, entre autres, Jeunesse J'écoute, qui a une augmentation de 24 % de ses textos reçus en pleine nuit à l'échelle nationale ces temps-ci. Donc, les jeunes qui sont en détresse plus que jamais. Il y a les psychiatres qui interpellent les partis politiques. On vous en a jasé beaucoup hier. Chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, un taux d'hospitalisation pour tentative de suicide qui a triplé entre 2010 atroce. Et 2023. C'était épouvantable.
J'aimerais ça qu'on me le ventile. Ben, je me dis, coudonc, c'est-tu le physique, c'est-tu...
Ben, c'est l'insécurité la quand tu changes, puis ben oui, c'est tout ça, assurément. Mais on va en jaser avec quelqu'un qui fait un métier, j'ai envie de dire, à mon sens, un peu différent. Peut-être que ce n'est pas tant que ça au final, c'est ce qu'on va découvrir. Ergothérapeute, on a l'impression que c'est souvent en santé physique qu'on va l'utiliser.
Moi, j'ai l'impression qu'il va me ramasser ma cheville.
Genre, il va m'aider à retourner à job éventuellement après un gros accident, là, de quoi de même, tu sais. Mais ergothérapeute en santé mentale, ça existe. Puis est-ce que ça pourrait être une solution d'une certaine façon, peut-être, pour les gens, parce qu'en ce moment, je veux dire, on crie à l'aide, on crie qu'il y a une crise, on sait qu'il y a un problème, le gouvernement est bien au courant, là. Mais on est comme dans une situation où il manque de personnel pour nous aider. Il y en a pas assez de psychiatres ou de psychologues ou moi, c'est une TS que j'ai, puis je veux dire, j'adore ce qu'elle fait, mais dépendamment de ton problème d'envie, c'est peut-être pas de ça que tu as besoin, tu sais. Fait que c'est vraiment difficile de s'y retrouver, mais il y a peut-être plus de ressources qu'on pense ou auxquelles on ne pense pas. C'est Mathieu Chevary qu'on reçoit ce matin, qui est ergo en santé mentale. Puis ça fait quand même quelques, j'ai envie de dire, années qu'on échange des textos par-ci, par-là, tu sais, via les ondes. Bon, il écoute Boulevard, puis son métier est quelque chose qu'il aime mettre de l'avant. Mathieu, bon matin. Merci en passant de t'être déplacé.
Bien, bon matin. Super content d'être là avec vous.
Bien, je suis vraiment contente parce que je sais que tu avais quand même une grosse journée. J'ai eu peur que ça fonctionne pas. Puis dans ma tête, c'était comme la façon de faire ce matin. Il fallait qu'on essaie d'amener le sujet un peu ailleurs. J'ai pas le choix de commencer par te demander, dans la région de Québec, à quel point on le sent. Parce que là, il y a plein de chiffres qui sont sortis à l'échelle nationale, au Québec. Mais chez nous, mettons, à Québec, est-ce que c'est quelque chose qu'on sent vraiment? Parce qu'on en parle depuis plusieurs années. On n'a pas l'impression de s'en sortir. Puis on dirait qu'on sait pas comment s'en sortir non plus.
Long soupir qui explique un peu la réponse, là. Mais oui, en fait, tu sais, dans ma pratique, comment ça se manifeste, ben c'est sûr qu'il y a davantage de demandes, puis des demandes qui viennent d'un peu partout, tu sais, dans le sens que ce qui est à noter, c'est que moi, je pratique au privé. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui lèvent la main pour prendre des rendez-vous directement avec nous, de plus en plus, puis pas juste, mettons, dans une clinique, je pense qu'il y a un réel désir puis un réel intérêt pour trouver des ressources. Fait que ça passe par une demande, deux demandes, une dizaine de demandes, puis le premier qui dit oui, ils vont
c'est
y aller.
Ça.
Yes. Fait que, tu sais, du bord d'un monsieur, madame, tout le monde, on lève un peu plus la main, on se présente. Du bord des organismes aussi, exemple, les assureurs publics, CNSST, SAC, qui ont de plus en plus de cas, qui ont des enjeux de santé mentale, qui, tu sais, généralement, dans la discussion, on l'a présenté comme on sépare la santé mentale, on sépare la santé physique, mais c'est un ensemble, puis c'est rare qu'un amoche pas l'autre, mm-hmm. puis c'est rare qu'un va pas empirer l'autre également. Fait que dans ce sens-là, ben c'est sûr que ces organismes-là en envoient plus, il y a plus de demandes, mm-hmm. Les assureurs privés aussi, les arrêts de travail, il y a... Fait que En gros, là, oui.
Mais qu'est-ce qui explique ça? Puis là, c'est tellement une question plate parce que je pense qu'on pourrait y répondre en nommant mille et une affaires. Là, tu sais, il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup de la pandémie. Là, la fin de la pandémie, ça nous a donc bien isolés, ça a joué sur le mental. Définitivement, ça n'a pas aidé. Mm-hmm. Mais est-ce que vraiment, c'est ça le dos large à un moment donné, là, en 2026, c'est-tu vraiment encore ça qui crée ces problèmes-là?
Ou c'est parce qu'on en parle plus?
C'est ça.
Souvent aussi quelque chose qu'on entend. Y a-t-il des angles morts à ça qu'on voit pas?
Absolument. C'est-tu parce qu'effectivement, on en jase davantage, on a l'impression que c'est pire ou réellement la santé mentale des Québécois va pas bien?
J'aurais envie que la santé mentale, en général, va moins bien, pas juste ici, localement, mais ça a des répercussions ici. La pandémie a son gros mot à dire face au changement qu'elle a amené, que ce soit au niveau du travail, au niveau de... amener un choc, si on veut, dans la notion d'équilibre. Tu sais, je pense, par exemple, aux parents qui, soudainement, ont plus de temps, mettons, t'enlèves la notion de transport, de lift, whatever... qui fait que là, bon, ben, y a un petit peu plus de facilité à travailler. Puis, tu sais, je pense que vous êtes aussi des bons exemples dans le sens que le travail n'est plus seulement au travail. Là, avec les enjeux au niveau des coupures, au niveau de vouloir être dans la rentabilité, ben là, ça peut amener des changements de culture aussi au niveau des entreprises, au niveau des employeurs. On ramène le staff, on ramène pas le staff. Des changements, n'importe quelle notion de changement, ça amène... une charge de stress, ça amène de l'ajustement. Puis dans un monde qui est constamment en changement, ben c'est un qui s'ajoute à une liste.
C'est trop de variations.
Oui. Beaucoup de variations.
Ça se peut-tu qu'on soit plus conscient aussi, je veux dire, de notre propre esprit, de notre corps, dans le sens où on en parle tellement que maintenant tu te dis « Ah ben là, je suis dans une drôle de période, mon Dieu, je dois tomber en dépression.
» Ouais, ben ça me fait rire parce que je trouve que c'est un aspect un peu couteau à double tranchant de... toute forme de profession comme la mienne ou celle de psychologue, n'importe quel intervenant en santé, ça vient avec un souci qu'on veut faire en sorte que les gens avec qui on travaille ont cette introspection-là, qu'ils la développent, qu'ils soient, tu sais, bon, il faut que tu sois à l'écoute de ton corps, de ta tête, il faut que tu identifies c'est quoi les signaux avant-coureurs qui vont dire que tu es dans une moins bonne période, tu es dans une bonne période, mais l'aspect négatif de ça, c'est que ça crée de la vigilance. Puis la
vigilance.
Ben, c'est un continuum, tu sais. Fait que là, l'hyper, c'est quand t'es vraiment plus au bout, là. Mais dans cette. C'est ça, dans ce continuum-là, mais ben, ça fait que, justement, dans une période où t'as un petit peu plus de stress, ben là, les signaux d'alarme sont plus forts, sont plus marqués. Tu y portes plus attention, ça pèse un peu plus la charge mentale.
Ça amplifie.
Ouais.
Ça peut-tu être aussi dans le couteau à double tranchant, donc le côté qui tranche, là? Une délimitation qui est un peu floue dans le sens où hey, c'est super si je prends conscience de moi, que j'ai ces signaux-là, que j'allume une fois de temps en temps, mais aussi dans le côté « Ouais, mais non, je peux pas faire ça, moi, en fin de semaine, parce que faut que je prenne soin de ma santé mentale. Ouais, non, à partir de 17h, moi, je réponds plus à mes messages. Ouais, mais non. » Parce qu'il y a un équilibre intéressant là-dedans, mais aussi, il y a des emplois où c'est vraiment pas approprié. Là, moi, je parle à quelqu'un qui travaille en relation de crise là, dans les RP là, récemment, me disait « J'ai de la misère à recruter parce que la nouvelle génération est super au courant. »
Protectrice
de son équilibre et tout ça. Ben, c'est pas une job qui est dans l'équilibre. Elle peut être super trillante pour quelqu'un qui gère bien cette pression-là, mais vraiment épouvantable pour quelqu'un d'autre.
Oui, la fameuse zone de compromis. Ça, j'en parle vraiment souvent aussi. T'sais, la zone de compromis, en fait, là, c'est... la zone dans laquelle tu vas sortir un peu de ta zone de confort qui va faire que ça va être stimulant, que tu vas sentir que tu développes tes capacités, tu les mets en pratique, tu apprends des choses sur toi, t'explores, peu importe. Puis, de l'autre côté encore, t'sais, vous allez voir que je suis énormément dans la nuance, là. C'est rare qu'on est tous dans le tout blanc, dans le tout noir. Puis, de l'autre côté, ben, c'est justement quand ça dépasse largement les limites, les choses sur lesquelles t'as peut-être pas les outils ou c'est plus difficile pour toi de dealer avec ces aspects-là, ben c'est sûr que...
C'est le parallèle avec la santé mentale.
Toujours.
De se dire, hey, c'est bon que tu sortes de ta zone de confort, c'est correct que tu sois stressé, c'est correct que ce soit désorientant ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas nécessairement en crise de panique ou en dépression.
Ouais. Exact.
Comment on peut, avant qu'on embarque vraiment dans ton domaine puis ton day-to-day, Mathieu, là, comment on peut observer que nos symptômes sont réels. Je vais le dire comme ça. Je ne sais pas s'il y a des chiffres ou une grille ou quelque chose qui fait que tu ne files pas pendant tant de temps. Mais là, peut-être qu'il faudrait que tu commences à le prendre au sérieux. On a toutes des périodes de marde. Hein, novembre, on va prendre novembre, par exemple. Je ne sais pas si c'est parce qu'on dit que c'est une dépression saisonnière puis que ça nous joue dans la tête, l'effet placebo, j'ai aucune idée, mais on le ressent toutes. Quand il y a le manque de lumière, on file toute poche. Ça ne veut pas dire qu'on est toutes en dépression, tu sais. Fait qu'il y a-tu des balises un peu que vous observez ou qu'on peut donner aux auditeurs pour dire « Hey, ben là, peut-être que toi, tu serais vraiment dû pour lever la main. Toi, ben prends un bon café, repose-toi, déstresse un peu, puis ça va aller. »
Ben, c'est une bonne question, puis tu sais, étant ergo, je vais quand même faire une mini-parenthèse, mettons, sur ma job, là. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut autant parler de santé physique que santé mentale? C'est l'aspect occupationnel. Fait que ça veut dire la fonction. Ça veut dire que si tu arrêtes de fonctionner, ben tu as des enjeux nécessairement, puis c'est là qu'un ergo peut intervenir. Fait que dans cet ordre d'idées-là, tu sais, un des, on va dire, parce que il y a différents profils de dépression si on va dans ce diagnostic-là, mais l'aspect commun, c'est l'impact sur la fonction. Fait que du moment que tu vois des changements dans ta fonction, c'est là que ça peut commencer à lever un flag. Ce que je veux dire par là, exemple que tu as l'habitude, je sais pas, les jeudis soirs, par exemple, tu joues dans une ligue de balle molle, genre. Puis que là, bon, ben une première fois, il y a eu un empêchement, c'est correct, ça a pris le bord cette semaine, pas de trouble avec ça. Mais là, deux semaines, trois semaines. Puis là, la motivation est moins, là. Puis là, les excuses deviennent un peu plus faciles. Puis la distance entre je me prépare à aller jouer à balle molle versus j'ai joué à balle molle est de plus en plus grande. Ben là, ça peut être un bon indice. Tu sais, quand. Puis on a malheureusement cette tendance-là à tasser les choses qui nous redonnent de l'énergie, tu sais, qui sont bonnes pour dans la
c'est
santé.
Vrai, hein?
Ouais. Moi, dans mon langage, j'appelle ça des revenus, mettons. Là. Je fais souvent allusion à genre la gestion d'un budget. Puis les revenus, souvent, c'est ce qui prennent le bord en premier. Parce que, ben, tu sais, on est dans des momentums où, justement, il y a des obligations qui s'ajoutent, on veut bien faire, on veut répondre aux attentes que nos différentes positions nous forcent à avoir, exemple, être parent, tu sais. Ben, ça fait que là, on priorise, ou du moins notre évaluation des priorités est changée. Puis là,
on
ça
se
fait
priorise que... moins.
C'est ça, exactement. Fait que, en gros, pour répondre à ta question, quand il y a des changements sur. On se priorise un peu moins, on voit des changements sur des choses qui sont même, mettons, juste répondre à nos besoins de base. Tu sais, que comme. Au niveau de la préparation de la bouffe, on arrête, on se tourne vers autre chose. Juste s'alimenter, ben là, il y a des changements. Fait que c'est vraiment, il y a vraiment une notion de avant-après dans le film du déroulement de ta semaine. Puis si ça se maintient, tu sais, c'est pas passager, c'est pas une situation de stress, exemple, un déménagement, un accouchement, pour être thématique.
C'est la fixation.
Ouais, ouais, non, c'est ça.
J'ai encore une couple de mois, là.
Ouais, non, c'est ça, mais je te prépare.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça, tu sais, quand c'est passager, il y a une période au travail où c'est exceptionnel. Exemple, tu sais, vous couvrez le festival d'été. OK, ben, tu sais, il y a des habitudes qui vont prendre le bord, il y a des changements, c'est chill. On récupère.
Genre, l'horaire de Mathias et moi cet été, là.
Genre.
On est partout.
C'est
là,
circonstanciel.
Puis effectivement, que notre alimentation a pris le bord, notre sommeil a pris le bord, notre performance commence à prendre le bord.
Oui, c'est normal, c'est normal. Mais là, quand
c'est normal.
C'est ça, quand c'est circonstanciel, tu peux y donner une excuse. C'est peut-être quand il n'y en a pas d'excuse, justement, que là, il y a peut-être un problème.
Ou que les excuses se multiplient.
Ouais.
Tu sais, si finalement, c'en est plus une, puis cette excuse-là, c'est même difficile à justifier. Là, c'est là qu'on peut commencer à lever le flag. Puis même dans un, je dirais, une autre idée, tu sais, d'y aller un peu plus en prévention aussi, tu sais, prendre soin de sa santé, ça veut pas dire nécessairement que t'as un problème. Ça veut dire que t'en veux pas, en fait. Là. Tu sais, tu veux maintenir ton niveau de fonction. Tu sais, si ton beat de vie, tu l'aimes actuellement, puis tu vois que, il y a peut-être ça qui peut me coûter un peu plus cher, que, ben, c'est correct d'aller consulter. Puis, tu sais, une consultation n'est pas un engagement, là. C'est pas un contrat, là. Tu sais, dans le sens que tu vas chercher les outils t'as besoin, puis au pire des scénarios, genre, le professionnel qui va t'évaluer, puis que ce soit en ergo, en physio, whatever, ben, il va te dire, écoute, tu sais, je pense que t'es top shape, puis prends telle recommandation, puis si tu te sens à l'aise de les appliquer, vas-y, tu sais. Mm. Genre, moi, je suis le premier à prôner l'autonomie, là, dans le sens que j'ai pas envie que les gens s'abonnent à la démarche qu'on a, tu sais. Moi, je suis comme, écoute, on peut trouver des outils ensemble, tu les appliques, je m'assure que tu sais comment les appliquer, t'envoies des bienfaits.
Vol de tes propres ailes.
100%.
Ah, mon Dieu, j'aime ça. Puis j'imagine qu'à l'inverse, si vous êtes dans une période justement un peu plus moche, peut-être que de trouver la chose qui te faisait du bien une fois par semaine à réintégrer, tu sais, ça peut être une solution. En passant, si vous venez de vous joindre, on parle avec Mathieu Chevary, qui est ergothérapeute en santé mentale. Là, c'est ça. Ça mange quoi en hiver, ça, mettons, là? Parce qu'on l'a dit un peu d'entrée de jeu, dans notre tête, c'est physique, l'ergothérapie.
Ouais.
Mais toi, t'es un peu plus spécialisé au niveau de la santé mentale.
Ouais. Bon. Tu sais, par exemple, on parlait des chevilles à Pascal tantôt, là. Tu sais, l'ergo, dans ce contexte-là, ce qu'il va observer, c'est, bon, ben là, on va comme faire un peu un examen de c'est quoi les exigences que tu as à remplir. Fait que dans ta vie de tous les jours, tu travailles à la radio, tu as une maison à t'occuper, tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants. Ça, c'est comme les exigences d'un travail. C'est comme les fonctions que tu dois remplir dans le cadre de ton travail, mais appliquées à ta vie complète. Puis là, tu essaies de voir, OK, ben là, avec la blessure et d'autres aspects, exemple que tu es moins motivé, exemple que genre tu es plus fatigué, peu importe, ben là, c'est de voir, OK, ben ces aspects-là t'amènent à arrêter quelle activité ou quelles activités sont rendues difficiles pour toi à accomplir, tu sais. Fait que l'aspect en santé mentale, on reprend ça, mais on va observer comme, bon, ben là, les différents événements qui ont généralement mené à ton arrêt de travail, ben, comment qui se manifeste? T'as-tu plus d'anxiété à l'idée de faire tes courses, de faire ton ménage? La motivation, est-ce qu'elle t'empêche de prendre soin de ta personne? C'est-tu plus difficile, exemple, au niveau de accompagner tes enfants à l'école? Au niveau de, tu sais, ton horaire de sommeil est complètement chamboulé? Est-ce que, justement, tu sais, la situation idéale que t'as par rapport à, je sais pas, ton rôle parental, ta job, ben, tu regardes le déroulement de ta semaine, t'es comme « Oh, palais, c'est pas le même film du tout. » Il y a un grand écart entre les deux. Mais là, l'idée, ça va être de dire « OK, ben faisons-nous un plan de match avec des objectifs qui sont plus atteignables au début. » Exemple, t'sais, est-ce que ça passe par apprendre c'est quoi le phénomène d'anxiété? Est-ce que ça passe par mettre en place une routine de sommeil qui te satisfait? Est-ce que ça passe par ajouter des périodes ou des moments dans ta journée, dans ta semaine où tu sens que tu fais un effort physique pour, après ça, ben là, ramener ça dans les activités qui ont pris le bord ou qui sont rendues plus compliquées.
T'sais. C'est du concret, dans le fond, quand tu
fais un ergo. Ah, 100%.
Fait que ce serait la principale différence, mettons, entre voir un psychologue puis aller voir un ergo en santé mentale, c'est que toi, tu prends le portrait puis c'est comment on peut mettre des choses en place maintenant. On n'ira pas fouiller dans ton passé, maintenant.
Non. Non, puis c'est là que la collaboration psy puis ergo est le fun parce que, tu sais, le psy, lui... ou elle, peu importe, va vraiment travailler à identifier un peu, tu sais, c'est quoi les impacts de ta personnalité, de ton développement sur ben, tel genre d'émotion apparaît dans tel scénario. Tu vas avoir tendance à penser ça ou il y a tel genre de pensée qui vont apparaître dans ce contexte-là. Ben, en ergo, nous, on reprend ça puis on est comme, OK, fine. Mettons que quand tu essaies d'aller faire l'épicerie, tu essaies d'aller faire tes courses, ben, tu as la crainte de croiser quelqu'un du travail que tu n'as pas envie de voir. Mais tu sais, cette pensée-là t'empêche d'aller à l'épicerie. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas nécessairement faire disparaître cette pensée-là, mais genre, comment qu'on fait pour te faire faire ton épicerie?
La contourner.
Ben, sans nécessairement la contourner. Tu sais, ça va-tu être de l'exposition, de la désensibilisation, peu importe.
Mais que si ça arrive, tu sois capable de gérer la situation, ouais, qu'elle soit moins anxiogène.
C'est ça.
Tu sais, quelqu'un qui nous dit, je suis vétéran avec un trouble de stress post-traumatique. J'ai eu quelqu'un qui était ergo dans ma vie pour faire des expositions dans les lieux publics, mm-hmm, parce que j'avais beaucoup d'hypervigilance. Ça m'a aidé à m'apaiser en public, à être plus calme. Ça, c'est un bon exemple.
Oui. Puis de l'exposition, je veux dire, j'en fais à chaque semaine. C'est vraiment une...
Tu vas avec tes clients dans les endroits?
Ouais. Ou... Okay. Ouais. Dans le fond, dans ma pratique, c'est très, très flexible dans mesure où ça peut être en clinique, à domicile. Il y a des gens, exemple, que j'ai accompagnés pour faire des courses dans les retours au travail. C'est intéressant. Oh, et puis...
C'est multiple là, comme accompagnement.
Ben, mais c'est ça qui est cool de l'ergo.
Tu prêches pour ta paroisse.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Je vais la mettre de l'avant un petit peu quand même, là, mais... Tu sais, c'est tellement large, puis c'est un peu des valeurs de l'ergo, justement, c'est de faire un portrait réel et complet. Tu sais, de pas s'arrêter, exemple, à genre, ben tu sais, pour revenir avec ta cheville, tu sais, la cheville est fonctionnelle, pas fonctionnelle, elle bouge, OK, fine. Mais c'est comme, OK, ben, tu sais, ta cheville, elle a ça, mais comme, ta tête, elle, là-dedans. T'sais, toi, gérer ta cheville, tu fais quoi? T'es-tu le genre de personne que, dans ses valeurs, ben, tu veux pousser à fond puis tout? Fait que t'es tout le temps en train de flirter avec les limites, ce qui fait que là, ben, effectivement, c'est plus tough avec la...
Du genre, je m'entraînais beaucoup, je me suis scrappé le pied, Kilimanjaro, je reviens, j'étais habituée de m'entraîner, je peux plus faire les mêmes affaires, je peux plus mettre des talons hauts,
ouais.
Je dors mal parce que j'ai mal, je manque de sommeil, ça joue ça. C'est ça que tu veux dire dans la route.
C'est exactement ça. Fait que c'est de voir les impacts fonctionnels de, ben, ton historique avec ta cheville, c'est quoi? C'est comment ça se déferle au quotidien, tu sais?
Je vais te lancer des fleurs. Il y a quelqu'un qui dit, pour avoir consulté Mathieu, je peux dire qu'il est excellent. Je savais même pas que ce genre de soins existait. Ça n'a pas été facile. C'est encore dur parfois, mais il m'a énormément aidé.
Fait
que,
écoute,
je te le donne et je te le lance. J'ai envie de te demander à quel moment une personne peut ou doit consulter un ergo, dans le sens que faut-tu absolument que tu sois en arrêt de travail? Faut-tu, ou moi, demain matin, ça n'a pas marché, j'ai pas de psy en vue, puis je peux aller consulter un ergo en santé mentale?
Ouais. Ouais, dans le fond, il n'y a pas d'obligation d'obtenir une prescription d'un médecin. Les cas où ça va arriver, c'est si on souhaite... Ben, certains assureurs le souhaitent là, pour le remboursement des frais, mais c'est uniquement pour ça. T'sais, on peut lever la main, puis consulter, puis that's it. C'est aussi simple que ça. Puis, est-ce qu'il faut être en arrêt de travail? Non. Il y a un aspect qui revient souvent, qui est l'équilibre, en fait. Là. Fait que, tu sais... Dans notre démarche, on travaille fort pour, on va dire, établir c'est quoi ta propre notion d'équilibre, puis de regarder, OK, ben ta propre notion d'équilibre, c'est ça. Si je regarde ta semaine actuellement, c'est ça. Puis là, l'écart entre les deux, est-ce qu'il est grand ou les deux situations se rapprochent un peu, tu sais? Puis ça va être ça la démarche, dans le fond, c'est de regarder, OK, à quel point c'est loin la situation idéale par rapport à ta situation actuelle, puis on se fait un plan de match pour y arriver, puis... C'est-tu possible? C'est pas possible. Si c'est pas possible, est-ce que la zone de compromis existe? Si la zone de compromis n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait différent?
Est-ce qu'un ergo en santé mentale a déjà eu ou a des enjeux de santé mentale?
On en a tous.
Non, mais tu sais, c'est souvent la question que j'aime poser aux professionnels parce que j'imagine que tu peux pas t'auto-diagnostiquer puis travailler sur toi-même, mais en même temps, les outils, tu les donnes au quotidien, fait que j'imagine que tu peux les appliquer sur toi-même.
Ouais, ben oui. Puis tu sais... Mettons, petite précision, tu sais, en ergo, on ne donnera pas de diagnostic. On va plus accompagner, peu importe. Je veux dire, peu importe la problématique, qu'il y ait de diagnostic ou pas, tu sais, il y a des façons de trouver des stratégies puis des outils à mettre en place. Mais, devenir ergo, c'est funky un peu parce que ça change ta perception puis ça fait que tu regardes pas le quotidien de la même façon.
T'es tout le temps solutionnaire ou...
Ah, je sais pas si solutionnaire, mais beaucoup dans l'observation, tu sais. Beaucoup, ben tu sais, mine de rien, c'est ce qu'on fait, là. On observe, on souligne, fait que ça fait qu'effectivement, t'es dans l'auto-observation, puis c'est là que tu peux voir comme des petits changements, t'es comme, ok, tu sais, je pourrais mettre un accent plus sur justement changer un aspect de ma routine de sommeil, exemple, ou de quoi du genre, tu sais.
Tu testes tout.
Ben oui.
Comment on aide un proche qui veut pas consulter ou qui sait pas par où passer ou qui visiblement va pas bien mais se l'admet pas pantoute? T'sais, j'ai l'impression que souvent on va parler aux gens qui vont mal, mais il y a beaucoup, beaucoup de l'entourage souvent qui est démuni un peu face à quelqu'un de proche qui va pas bien.
Très bonne question. Tu sais, il y a un aspect clé au niveau de avoir besoin d'aide où faut que tu le constates. Puis il faut que tu l'acceptes.
Tellement long pour certaines personnes, ça. Puis c'est pas un reproche, là, mais c'est une constatation.
Puis c'est pas linéaire. Dans le sens que, tu sais, c'est comme le deuil, en fait. Là, ça peut bien aller, puis tu penses l'avoir complété, puis finalement, une bad luck, puis ça revient.
Ou tu peux être motivé, puis une journée, tu te lèves, tu dis non, j'ai pas besoin de ça.
Ouais, c'est ça.
On est bon là-dedans, à se convaincre.
Là, ben oui, non, ben oui, finalement, ben oui. J'ai pas tant avancé.
Être irrationnel, c'est à la mode, quand même. Fait que, tu sais, comme un proche, mettons, la première chose que je m'assurerais, c'est de voir si moi, comme proche, je me sens à l'aise aussi d'adresser le sujet, tu sais, parce que on met beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent sur, tu sais, l'écoute parler, puis je veux dire, je suis le premier à l'encourager, là. Mais la chose qui est consciente, qui est importante aussi, c'est de voir, tu sais, si tu sens que ça dépasse un peu tes compétences, ton niveau d'aisance d'adresser ce sujet-là, ben, tu sais, de là, pas hésiter à référer, mettons. Que ce soit des lignes téléphoniques d'aide, des organismes, peu importe. Ou même, tu sais, le médecin aussi, là, pour ceux qui en ont. Mais, outre ça, tu sais, tu te sens outillé, t'es comme, OK, c'est important pour moi. Ben, je pense que les deux choses clés que je mettrais de l'avant, c'est, ben, valider est-ce que l'autre personne est prête à recevoir ce que j'ai à lui dire. T'sais, c'est-tu un bon moment pour tu sais, j'aimerais ça te parler de quoi qui me tient à cœur, que j'ai observé. T'es-tu disponible? Puis, clarifier les intentions. Tu sais, je m'en fais pour toi, ou, tu sais, d'y aller à la positive aussi, tu sais, je tiens à toi, j'aime ça que, mettons que c'est un ami, genre, tu sais, je reviens avec mon exemple de balle molle, tu sais, hey, c'est le fun dans ta compagnie, tu sais, on...
Tu nous manques.
Ouais, tu nous manques. Ah, exact, tu sais, puis de voir, ben, tu sais, je m'en fais, tu sais, j'ai-tu raison de m'en faire, tu sais, c'est-tu comme des idées que je me fais, ou, tu sais, j'ai juste besoin d'être assuré. Fait que, tu sais, les intentions, généralement, sont bonnes. Puis des fois, ça va permettre de comme excuser des maladresses, là, parce que, tu sais, je veux dire, la communication, ça fait partie, genre, de ce que j'ai étudié, puis ça a pris 5 ans, là, tu sais, fait que c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça. Mais des fois, de clarifier les intentions, ça va quand même permettre de donner un cadre sécuritaire où, genre, ben, tu sais, si je dis quelque chose qui peut t'insulter ou... C'est pas le but.
Non, c'est ça. Pas le un but, petit t'sais. Warning, un avertissement mettre du bubble un peu autour. Là.
Du velours.
J'ai envie de te demander, avant de te laisser partir, Mathieu, est-ce que c'est couvert par les assurances généralement quand on parle d'ergothérapie? Parce que, tu sais, souvent, on va voir le psychologue, psychiatre. Maintenant, travailleur social, de plus en plus, on va le retrouver. Mais, tu sais, les gens ont tout ça dans leurs assurances ou c'est plus compliqué que ça?
De plus en plus. De plus en plus, c'est couvert. Tu sais, dans le pire des scénarios, si les assurances ne le couvrent pas, ben, ça peut être déductible d'impôt, qui peut quand même être un bon coup de main. Mais autrement, oui. Là, justement, il y a une effervescence aussi là, autour de l'ergo en santé mentale. Tu sais, il y a plus en plus de professionnels qui constatent, mettons, la plus-value. Fait que là, ils sont prêts à collaborer, ils réfèrent un peu plus. Puis ça fait que, justement, ben, ça nous amène un peu plus de clients dans ce sens-là. Fait que là, les assureurs ont la puce à l'oreille, puis ils vont de plus en plus l'accepter.
Je trouve ça intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a besoin nécessairement d'aller fouiller dans son passé pour régler quelque chose de particulier. Des fois, on a juste besoin un peu d'un plan de match puis d'être accompagné, puis c'est exactement ce que les ergos en santé mentale vont faire. Fait que t'as pas besoin nécessairement de séances à l'infini non plus.
Non.
Ce qui fait que peut-être que ça peut vous encourager niveau prix si jamais les assurances couvrent pas. Mais ça existe, sachez-le. Ergothérapeute en santé mentale, il en est un. Mathieu Chevary, merci beaucoup de t'être déplacé ce matin.
Ben, merci.
Un grand merci, c'était vraiment intéressant.
Hey, vraiment?
Puis moi, si j'étais employeur, je voudrais m'assurer que j'ai peut-être l'ergothérapie dans les possibilités de mes assurances, si j'en ai. Puis j'en parlerai, j'enverrai une petite infolettre. Ouais. Hey, voici l'entrevue à Boulevard 102.1, voici l'open mic d'aujourd'hui.
Ça existe.
Si ça intéresse les employés, moi je ferais ça. Prenez le lien là, sur blvd.fm si vous êtes employeur ou vous êtes employé, puis envoyez ça à votre monde.
Partagez la bonne nouvelle.
Merci Audrey Pinchot.
Salut.
Salut, on te retrouve demain dans l'Open Mic dès 11h avec un nouvel invité.
Le point de match.
C'est sous le soleil qu'on vous accompagne pour les dernières minutes à l'émission dans le Point de Max, parce qu'après, ben, c'est Jean-François Fortin qui s'amène et qui restera avec Mathias Turcotte. Mathias qui m'accompagne, mon nom est Pascal CV. Restez là parce qu'on vous l'a dit. Normand Voyer, chimiste, qui va être en studio avec nous. On va aller parler des gens qui sont en beau maudit dans de la rage. La rage chez les animaux puis les tiques, parce qu'on en a peu parlé cet été ici à Boulevard 102.1, mais c'est un problème épouvantable. Tu sais, la maladie de Lyme, etc., on est en montée. Puis les tiques, ça peut être microscopique. Puis il y a des gens qui nous ont demandé d'aller faire un petit tour là-dessus. Fait que Normand Voyer va être avec nous. Question d'amener un peu de funkiness à la tique et à la rage, si jamais on arrive à faire ça. Mathias, sinon dans l'actualité, on surveille quoi?
La première ministre Christine Fréchette qui a sorti de ses vacances estivales, en fait, qui va le faire demain pour annoncer 3 candidatures dans la région de la Capitale-Nationale, dans Chauveau, Jean-Lesage et Vanier-des-Rivières. Dans Vanier, c'est Françoise Faverion Fortin qui va se présenter. C'est l'ex-vice-présidente de Exportation et Développement Canada. Du côté de Chauveau, c'est Christian Lachance, un entrepreneur de Lac-Beauport et président de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier qui va se présenter pour la CAQ pour les prochaines élections. Le gouvernement de Mark Carney a rencontré des lobbyismes des grandes compagnies pétrolières, pas moins de 1318 fois pendant la première année de son mandat. On dit que c'est un accès sans précédent puis qui n'est pas étranger au démantèlement de plusieurs politiques climatiques qui avaient été mises en place sous le gouvernement Trudeau. On nous apprend que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Timothy Hodgson, a rencontré à lui seul les pétrolières et tout 83 fois, soit une moyenne de une fois aux 3 jours. Et je termine avec Anthony Fauci, qui a été accusé d'entrave au Congrès aujourd'hui. Lui qui a orchestré la riposte de la COVID-19 du côté de la Maison-Blanche, a été mis devant le Sénat pour obtenir des réponses, notamment aux origines du virus, a plaidé le 5e amendement devant le Sénat à plusieurs reprises, a donc été accusé d'entrave aujourd'hui.
Merci, Mathias. Sinon, à la météo, tout ce que je peux vous annoncer, c'est des bonnes nouvelles, contrairement à l'actualité. On est à 27 degrés actuellement à Québec. C'est plein soleil partout. 88-971-1021, si vous voulez nous dire où vous êtes et ce que vous faites avec ce soleil-là. Ça peut monter jusqu'à 30 écrans solaires. Ouais, ça serait pas une option. Et pour demain, c'est sensiblement la même journée. Les nuits, par exemple, sont moins fraîches que celles qu'on a connues. C'est assez chaud. Peut-être un petit ventilateur ou encore une aire climatisée, là, ça, c'est à prendre pour les nuits prochaines. Sur les réseaux routiers, Mathias, est-ce que c'est pas mal résorbé, là, le trafic?
Laurentienne, ça se passe bien. Par contre, 20 direction ouest entre Taniata, président Kennedy, très difficile. Henri IV, direction sud, à hauteur de Charest, quand même pas mal d'attente. Même chose pour Laurentienne, direction sud, pour accéder à Capitale.
Parfait, merci beaucoup. Tout de suite en studio, il est là, il s'est présenté en chair et en os, c'est Normand Voyer, professeur titulaire à l'Université Laval en tant que chimiste. Salut Normand.
Hey, bonjour Pascal, savais-tu que c'est un privilège pour des scientifiques d'être invités
dans
à des micros? Moi, je trouve ça fantastique que vous invitiez des scientifiques.
Ça va avec la personne aussi, là. Toi, t'es dynamique, t'es le fun, tu veux pas que je t'appelle la rockstar de la chimie, mais c'est ce que je pense.
Ouais, ben j'avais voulu, hein. J'avais auditionné pour U2, mais ils ont pris Bono.
Ils ont pris Bono. Ils se sont trompés.
Ben oui,
puis John Bon Jovi, lui, t'as pas pu prendre sa place ou...
Ah, ben c'est bien trop vieux, ça.
Ah, il est trop vieux, lui.
Ben non, c'est une blague que je fais.
Hé, hey, Normand, t'étais dans le Nord il y a quelques semaines. Là, t'es à Québec. La semaine passée, on parlait de maïs avec toi. Il y a plein de gens qui ont pris tes trucs pour pas développer l'amidon pour pas qu'il soit pâteux. Pour
tant mieux!
Pour
tant
mettre
mieux.
Dans l'eau le maïs là, avec son épluche.
Avec les plures.
Avec les plures, pour être sûr que ça ne s'assèche pas sur le barbecue. Mais là, on est complètement ailleurs aujourd'hui.
Mais on est quand même dans l'été. Hein.
On est dans l'été.
Puis je pense que c'est important. On ne peut pas juste parler des bonnes affaires et dire c'est le fun, le maïs, etc. Mais ce qui se passe, des choses quand même, le réchauffement climatique fait que, tu sais, les gens, on ne parle pas de ça souvent, là, mais pourquoi il y a de plus en plus de maladies émergentes qui se traînent comme ça, bien, ça arrive, c'est à cause des changements climatiques.
Puis là, la maladie émergente dont on parle le plus ces temps-ci, qui a fait rire au début, parce que tu vois, OK, c'est ça, le raton laveur rageux, toi, chose, y a-tu la mousse sur le bord de la... C'est une gueule, donc... Je peux pas le dire, là.
Oh oui.
De la gueule. Dire ça, on dirait que je suis super vulgaire.
C'est le terme approprié.
C'est le terme approprié.
Es-tu rageux? Es-tu ça? Mais ce qui est fascinant, puis qu'on a constaté là, dans les derniers jours, c'est aussi les vaccins qu'on donne. On va en jaser. Mais d'abord, la rage, c'est quoi cette affaire-là? Parce qu'il paraît que quand on a des symptômes, c'est 100% mortel.
C'est 100% mortel. Puis c'est intéressant épeurant, parce que c'est une histoire scientifique absolument incroyable. OK, je vais vous raconter l'histoire de la rage. Là. Avant 1885, tout le monde mourait de la rage. Puis là, pourquoi on appelle ça la rage? Parce qu'en fait, la rage, c'est un virus. C'est un virus, un lyssavirus. Il est bien connu. Puis c'est un virus qui est mortel. Puis il se transmet par la salive. C'est vraiment incroyable quand même.
Fait que c'est les gens qui se frenchent qui se donnent la rage.
Si tu vois quelqu'un qui a la rage et qui a là, ça te tente de le frencher, ça peut arriver. Je te le dis tout de suite, tu vas l'avoir. Parce qu'en fait, un contact avec la salive, t'as la rage.
Okay?
C'est super facile à contracter.
Ça peut être quelqu'un qui te positionne dessus. Est-ce que ça peut être, mettons, quelqu'un qui lècherait quelque chose ou qui aurait échappé une goutte de salive sur un objet
quelconque? Je ne sais pas combien de temps ça peut durer sur un comptoir. Okay. Là, au parce que comme ça, il faudrait étudier ça. Là, parce
mettons que tu passes ta main quelque part puis il y a un raton en laveur rageux qui a laissé un dépôt de bave.
Oui,
ça
c'est connu. Ça, c'est connu. Parce que en fait, un des symptômes de la rage, c'est beaucoup de salive, des excès de salive que les animaux ont fait. Ce virus-là, il est vraiment particulier. Qu'est-ce qu'il fait? Il se loge au cerveau, puis il va créer de l'inflammation au cerveau. Ce qui va faire que là, ça va altérer le fonctionnement du cerveau. Puis là, c'est là que les animaux commencent à avoir des comportements un peu bizarres. Puis que tu as un raton laveur qui peut attaquer une vache, ou qui peut attaquer un loup, ou qui peut attaquer un coyote, parce qu'il a complètement la rage, il est enragé. Puis c'est pas même comme ça, c'est de là que ça vient. Et... Avant 1885, ben on mourait de la rage tout le temps. Mais il y a un chimiste qui s'appelle Louis Pasteur.
Ah, oh, le même que pour...
pasteurisation. Vaccins, oui. Non, mais Louis Pasteur, lui, il fait des études, un chimiste, puis il travaille sur toutes sortes de choses. Puis la rage, il travaille là-dessus, puis ça l'intéresse, puis il comprend toutes sortes d'affaires, puis il a commencé à dire, si t'as la rage, puis tu survis, c'est que t'as développer quelque chose qui est bon. Puis ça veut dire que dans ton sang, il y a quelque chose, puis etc. Fait que, tu sais, c'est un bon scientifique.
Il y a des gens qui survivaient.
Puis, ben, non, tout le monde meurt de ça. Mais okay. Là, ce qu'il a fait, il a dit, je vais prendre le liquide de ce qui reste comme ça d'un lapin. Et puis là, il y a une famille allemande qui arrive avec un jeune garçon, Joseph Meister, de 9 ans, qui a la rage, qui va mourir. Pasteur, il dit, je vais le guérir. C'est ce qu'il fait. Il prend son jus qu'il a, puis il injecte ça. C'était le premier virus, premier vaccin pour la rage. C'est le premier vaccin vraiment développé. Puis il va guérir le jeune Joseph de 9 ans. Il va le guérir avec cette potion-là qui devient le vaccin. Et par la suite, c'est ça qui va donner naissance aux instituts Pasteur partout dans le monde où on va faire des vaccins et on va guérir la rage.
C'est un miraculé, mais par la science, contrairement à d'autres histoires du
temps. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment comme ça. Et c'est comme ça que le virus de la rage a été combattu depuis 1885 par des vaccins parce qu'il n'y a pas de médicaments. Le monde ici qui pense qu'il y a des médicaments. Non, il n'y a pas de médicaments pour ça. C'est un vaccin qui vient, qui contre le virus. Fait que quand t'es pris à temps, avant d'avoir trop de symptômes, on donne des doses de vaccin, puis ça va te guérir de ça. C'est vraiment
incroyable. On t'en donne jeune aussi, les doses du vaccin contre la rage.
Pas de vaccin de rage, on ne vaccine pas personne pour la rage. Seulement, si t'es attaqué, ça vaut pas la peine de faire ça, parce que la rage, tu peux pas contracter la rage, comme par exemple l'hépatite ou la polio ou tous les autres virus. Là.
Les premiers symptômes qu'on a, qui pourraient là, être ceux qu'on devrait remarquer avant de tomber dans...
C'est comme une grosse fièvre, mais t'as pas besoin de t'en faire. Faut que tu sois mordu par un animal qui est assez enragé, comme ça, puis comme ça, on le sait, tu te trompes pas. Fait que là, tu sais, c'est bien beau les virus, les vaccins comme ça, mais il y a des gens qui ont trouvé qu'on pouvait avoir des vaccins, pas besoin, ça c'est un vaccin qu'on inocule, lui, il faisait une injection, mais on a trouvé des vaccins oraux.
Mais là, ça, c'est fascinant, parce que Matt et moi, on regardait à la télé les genres de petites capsules qu'on allait pitcher dans la forêt, puis ça, c'est des vaccins contre la rage, mais tu te dis, Colin, OK, super, mais si mon chien tombe là-dessus, si un enfant tombe là-dessus...
Il arrive aucun problème.
Aucun problème.
Aucun problème.
Explique-nous ça.
Bon, ce qui arrive, c'est que là, on a dit, c'est facile, là, il y a de la rage, puis c'est les animaux sauvages qui transportent la rage. Fait qu'on va les vacciner. Tu sais comment tu vaccines des animaux sauvages? Tu les appelles pas dans une clinique vétérinaire pour les vacciner. Okay, fait que là, vu qu'il y a des vaccins oraux, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le vaccin qui est super efficace, qui est produit par biotechnologie. On le met dans un petit biscuit qui a bon goût, puis qui est bien enveloppé. Puis là, ça, on en distribue à peu près 75 par kilomètre carré ou 150 par kilomètre carré, dépendamment du nombre de cas qu'il y a. Puis là, il y a des petites moufettes qui vont venir, il y a des coyotes qui vont venir, il y a des lapins qui vont venir. Puis, bref, ça va attirer tous les animaux, mais surtout les ratons laveurs de ce temps ici, en Estrie. Puis là, dès qu'ils croquent dans ce biscuit-là, il y a une petite substance qui relâche dans la bouche de l'animal suffisamment de vaccins pour qu'il soit immunisé pour à peu près un an.
Et si un raton laveur rageux, okay, lui, il a déjà la rage, croque ce biscuit-là, ça ne donnera pas d'effet.
Ça va aider, ça va neutraliser, mais dès qu'il a la rage, il faudrait qu'il y ait plusieurs doses de ça, puis il va arrêter ça. L'objectif est d'empêcher les animaux de propager la rage. Puis si tu en mets suffisamment, puis qu'il y a suffisamment de ces ratons laveurs ou de ces coyotes-là qui mangent ces biscuits-là, bien, ils ne pourront pas la contracter, puis ils ne pourront pas la poursuivre, puis on va éradiquer cette épidémie.
Ça, c'est fort intéressant. Ça nous fait presque oublier les tiques, hein? Parce que ça, c'est toujours... Oui,
mais je voulais juste dire, souvent, on ne sait pas oui, que ça, à quoi ça sert faire de la recherche scientifique. Bien, ça sert à ça. Ça sert à développer des biscuits qui sont des vaccins pour contrer la rage. Hein? Fait que souvenez-vous de ça. Puis il y a des biologistes qui ont étudié combien il faut que tu en mettes pour avoir ça. Puis il y a des statisticiens qui nous ont trouvé ça. Donc, la science, ça solutionne des grands problèmes de société.
Bien, assurément. Puis tu dis, c'est pas dangereux pour un enfant, c'est pas dangereux pour un chien.
Absolument pas.
Donc, le petit biscuit, il fait son effet, puis en plus, ben, il est sécuritaire. Mais là, je disais que ça nous fait presque oublier les tiques. Les fameuses tiques qui, moi, m'ont fait presque faire des cauchemars. Là.
Ben, on a parlé au début de la saison, mais là, on a comme oublié ça, mais il y a encore plein de tiques. Okay?
Puis, l'émission tire à sa fin, mais il faut en parler. Mais il y a un pharmacien qui disait que selon où il a ses pharmacies au Québec, les demandes sont tellement différentes. Mais côté de l'Estrie-Laurentide, là, c'est à fond la caisse, les consultations pour les tiques.
Absolument. Ben, les tiques, c'est vraiment une microscopique. J'en ai une ici que j'ai amenée en studio.
Un toutou tic. Qui ça. Fait ça? Un toutou tic. Il y a un marché pour ça, clairement, toi.
Bien, clairement, c'est pas moi qui l'ai fait, là. Mais c'est vraiment une petite bébite. Ça a 1 à 2 mm de long. Puis les tiques sont aveugles. Tu pensais que c'est le fun d'être une tique, là? Ils sont aveugles et puis ils sautent pas. La seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est attendre sur une branche qu'un mammifère passe, OK?
Que t'accroches la branche puis que là, il s'accroche sur toi.
Exactement. Faut que tu passes. Fait que si tu penses que c'est le fun d'être une tique, ça vit 4 à 8 semaines.
Fait que là, son momentum, c'est vraiment quand il y a un mammifère qui passe.
Il y a des gens qui ont plus de vacances que ça. OK? Mais quand ça passe, ça saute. Pourquoi? Parce que les tiques, les mamans tiques ont besoin de sang pour nourrir leur bébé, parce que dans le sang, il y a du fer, puis il y a de l'hémoglobine, donc des acides aminés, puis c'est ça, ils en ont vraiment besoin. C'est pour ça qu'ils nous piquent. Ils ne nous piquent pas parce que ça leur tente de nous piquer. Le problème, c'est quand ils nous piquent, bien, ils peuvent nous transmettre certaines bactéries qu'ils ont dans leur corps. Parce qu'eux autres ne sont pas affectés par la bactérie qui est en fait responsable de la maladie de Lyme. Là. Je ne vous donnerai pas le nom scientifique, mais c'est une bactérie qui est bien connue et qui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il y avait des enfants qui avaient beaucoup d'arthrite, il y avait de l'arthrose dans un village qui s'appelle Lyme au Connecticut, ou Lyme si vous préférez. C'est de là l'origine de la maladie de Lyme, la maladie de Lyme que tout le monde peut avoir parce que si tu te fais piquer par une tique, ben, tu vas peut-être la contracter. Tu as 24 heures pour enlever la tique de façon sécuritaire pour empêcher que la bactérie rentre dans ton sang. Mais ça, c'est seulement la tique à patte noire, la tique à chevreuil. C'est une ixode, une microscopique. C'est là, 1-2 mm. Fait qu'il faut être alerte. Il faut juste être alerte.
Il faut ça sculpter le corps au complet là, quand on est allé en forêt.
Quand on est allé en forêt. Mais il ne faut pas vous empêcher de faire ça parce qu'il y a des moyens super simples. Comme je l'ai dit, premièrement, les tiques sont aveugles. Comment ils nous trouvent? Ils nous trouvent par le CO2 qu'on expelle, c'est de notre poumon. Et en plus, ils vont nous suivre par l'odeur corporelle. L'acide butyrique qu'on produit dans notre peau, ça va permettre de les attirer. Puis là, quand ils sentent ça, ils sautent sur nous, comme ils sautent sur un chevreuil, comme ils sautent sur n'importe quel. Puis ils ne veulent pas rien savoir de nous autres. Il n'y a pas des personnes qui se font plus piquer que d'autres, c'est pas vrai. Par contre, on peut faire quelque chose. On peut mettre des répulsifs. Ça, ils n'aiment pas ça. Le DEET, le DEET, c'est le meilleur. Puis, mettez-vous surtout les bas dans tes pantalons, sur tes pantalons, puis tu mets des manches longues.
On ferme les extrémités.
On ferme les extrémités. Puis, s'il y a vraiment beaucoup de moustiques, tu peux même mettre un filet sur la tête. Tu sais, les petits filets que tu achètes.
Oui, oui, super oui. Facile. Contrairement à la Saint-Valentin, le plus tu es habillé, le mieux tu es attirant.
Bon, j'avais pas fait ce lien-là. Mathias et moi, on est subjugués par ce commentaire.
On s'attendait pas à ça.
On s'attendait pas à ça. Donc, c'est pas de la Saint-Valentin. Non, c'est ça. Tu peux faire ça. Mais il y a aussi des médicaments pour traiter si tu as une tique. Mais il faut que tu l'enlèves de façon sécuritaire. Allez voir ça. Le gouvernement du Québec fait une belle promo de ça. Ça vous prend des belles petites pinces à tique. Tu achètes ça quelques dollars dans une pharmacie. Mais il y a d'autres maladies. La tique à patte noire, celle-là, peut transporter une vingtaine de maladies. L'anaplasmose, par exemple, qui est une autre bactérie qui va avoir des effets. Elle, il faut vraiment que tu l'enlèves rapidement, la tique, sinon tu peux contracter cette bactérie-là et cette maladie-là. Mais il y a des médicaments qui existent. Il s'agit juste d'aller voir rapidement, consulter. Donc, c'est vrai, n'ayez pas peur d'aller consulter les professionnels de santé, mais première chose, prenez une photo. Enlevez-la de façon sécuritaire avec des petites pinces, bien comme il faut. Ça se vend en pharmacie, super facile.
Il y a plein de vidéos aussi qui nous le démontrent sur YouTube, absolument. Entre autres, sur comment enlever cette tique-là. Mais il faut prendre ça au sérieux parce que j'ai l'impression qu'on est pris avec ça pour encore plusieurs années. Là. On ne va pas éradiquer la
tique. Mais c'était déjà là. Ce qu'on ne sait pas, c'est que de plus en plus, ça monte vers le nord. De plus en plus, les oiseaux vont transporter des tiques. Les chevreuils montent vers le nord. Pourquoi? Parce que les changements climatiques font que ça se réchauffe. Et donc, on va commencer à avoir des tiques un peu plus qui sont porteuses des maladies un peu plus au nord, pas juste dans les cantons de l'Est comme on voyait avant, etc. On ne pourra pas empêcher ça. On a déjà étudié ça, mais on ne peut pas l'empêcher.
Puis on ne peut pas empêcher les gens de t'aimer, Normand Voyer, parce qu'on avait beaucoup de textos pendant ta chronique au 88-971-1021. Il est super intéressant et on est très content d'avoir fini l'émission avec toi aujourd'hui. Normand Voyer, professeur titulaire à l'Université Laval en chimie et chimiste, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait vraiment plaisir. Puis je souhaite une bonne journée, puis empêchez-vous pas d'aller faire une belle marche en forêt pour ça.
Oh non, la santé, c'est aussi par là.
Absolument.
C'est juste protégez-vous. Mathias, merci d'avoir été là.
Ça a été un plaisir. Toi, on se retrouve demain.
Oui, puis tu continues avec Jeff Fortin.
Jusqu'à 14h.
Donc, l'équipe du retour ensuite, c'est Denis, Véro et Audrey. Presque toute l'équipe est de retour. Merci d'avoir été dans le Point de Max aujourd'hui. On se dit à demain aussi dans l'émission du matin avec Alex Laramé et Jeff Fortin.
Le Point de Max. Le Point de Max.